I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'arrivais que je l'avais rencontré et je disais à tout le monde, putain les gars, ça y est, j'ai rencontré Lady Gaga et tout. Et en fait, j'avais une photo que je voulais montrer à personne et je disais, bah, on a pris une photo ensemble et tout. Et en fait, je montrais la photo, je finissais, mais après, genre, je sais pas combien de minutes de rêves qui sont des heures et à chaque fois des jours et des mois et tout. Et je finissais par montrer la photo et c'était moi avec un golden retriever et je disais, non mais je vous jure que c'était Lady Gaga.
Se tartiner le visage, ou tartiner la biscotte, ou tartine près du rivage, je croque la vie comme un petit toast. Wow, c'est la tartine de vie, pas la galette des rois. Entre amis, en famille, on n'oublie pas papy, c'est super, on tartine, on raconte.
Les amis, comment ça va?
Bah ça va et toi?
Ça va.
Très bien, on vient d'écouter ce magnifique générique fait par Chilla et Matou qui est à la prod de tous les génériques.
Incroyable.
Et incroyable. Incroyable. Moi, quand elle m'a envoyé le truc, je me suis dit mais on t'a jamais vu comme ça.
Bah non, on dirait un générique de série américaine. J'adore. Des années 2000, c'est
ouais,
un truc de fou.
Même
de
qu'elle
fou.
A dit yeah.
Ouais.
C'était mon passage préféré.
L'accent anglais sur le tart.
Ouais. Ouais. Franchement, elle m'a régalé. Pour l'instant, tous les artistes jouent trop le jeu et tout. Et je sais que je sais pas encore s'ils seront dispo sur Spotify ou quoi, parce que je sais pas comment on fait.
Pour mais, un extrait de 25
ouais.
secondes.
Bah, en fait, tous mes génériques, tout le monde me dit à chaque fois, ah, est-ce qu'on peut les mettre dispo? Et je sais pas si je vais faire une playlist qui va durer genre.
Sinon, faut que tu demandes aux artistes de faire des versions longues, mais est-ce que ça serait intéressant? Parce que
moi,
tartine.
Oui. Une version de 10 heures sur YouTube qui répète le truc. Ça m'a.
J'ai peur que ce soit décevant comme les gens qui font des sons, tu sais, ils font une traîne de 15 secondes sur TikTok et après oui. on leur dit ah, faites la musique! Et du coup, ils font la musique en entier. Les gens disent bon, bah c'était cool 15 secondes de
oh
musique,
là
mais
là.
Le reste non quoi.
Peut-être ça ferait ça et ça briserait la carrière de Chilla, ce qui serait dommage quand même.
Non, c'est pas le but. C'est pas le but. Pomme,
oui.
La dernière fois que t'es venue dans Tartine de Vie, c'était le Sea Gang.
Le Sea Gang.
Il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive pas des dizaines de
bah,
DM de
bien sûr.
Quand est-ce que revient le Sea Gang?
Le Sea Gang, bah écoute, moi je suis là, mais je suis juste une représentante unique du Sea Gang.
Un tiers
du Sea Gang. Et les autres, je sais pas trop ce qu'ils font de leur vie, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Mais c'était incroyable, c'est vrai qu'on avait beaucoup rigolé. Et je me souviens que t'avais presque pas parlé parce qu'on avait ouais. vraiment dérivé. Et du coup, t'avais ta petite fiche et en fait, tu l'avais pas du tout suivi,
c'est
pauvre
vrai.
Toi. Genre, vraiment, j'étais là à la fin en mode, mais on a rien dit de ce qui était écrit.
C'est pour ça, là, il a rien écrit direct. Si c'est je vais pas parler de toute façon.
Blanche. C'est vrai que je m'étais dit, on va lire vos pages Wikipédia
oui.
et ça va faire une intro d'émission.
Oui.
Ça fait toute l'émission.
Ouais, ouais on n'a jamais arrêté de. Mais c'était trop bien, très bon souvenir.
Ouais, c'était très stylé.
Et ouais, j'avais adoré. J'avais une salopette à l'époque, j'en porte plus maintenant.
C'est vrai?
Maintenant, c'est filet obligatoire.
Ouais, maintenant, c'est filet aux fiches. Maintenant, c'est genre truc plus crochet, genre mode futuriste, tu vois. Genre, j'ai un peu changé de style vestimentaire. Mais je change tout le temps de style vestimentaire, mais Pauline aussi, donc ça va, on est sur la même.
Moi, on reste sur une vieille personne, quand même, globalement. Mais avec des t-shirts rigolos. Ça,
exact.
C'est ma ligne éditoriale.
Mais je crois qu'on est revenu au cycle vieux. Genre, tu sais, les trucs des vieux deviennent maintenant les trucs des jeunes.
Bah oui.
Ah oui, genre les prénoms, genre Robert,
ouais, exactement.
Colette.
Ouais.
Colette.
Ouais, c'est vrai.
Josephine.
Pyjama, merci d'être là. Oh là,
ah,
je t'ai
merci.
Pris pile au moment, désolé.
Attends, merci à toi. Merci.
Ça fait longtemps qu'on essaie d'organiser cette table.
C'est vrai, c'est une super table. J'aime beaucoup ces personnes et tout. Donc toi, je sais pas encore si ça se trouve, je t'aime pas. Mais
écoute, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire de voix de noix de coco
déjà comme ça,
ouais,
super,
ça
moi,
direct.
Ma vie. Qu'est-ce que c'est
mais,
je, ouais, tu sais pas si t'es au courant.
Contradictoire.
Claire, elle me regarde en mode, tu m'as pas dit. Non, mais j'ai fait une fois une pub pour Pornhub, pour en fait des sextoys Pornhub, et on m'a juste dit, t'as besoin de faire la voix d'une noix de coco. Je sais pas si j'ai fait aussi la voix des spaghettis,
wow.
Mais en gros, ouais, j'ai fait une voix comme ça un après-midi. C'était un plan de Mid et voilà, et c'est vrai que Mid il m'a 2-3 fois appelé pour faire des trucs loufoques comme ça, et je crois que j'ai aussi chanté sur une chanson de pub de Frank de Squeezie, il me semble, j'ai fait
okay.
du rap
J'aime le « il me semble », c'est-à-dire que non, c'est pas exactement ce que t'as fait.
Ça m'arrive de réaliser, genre une fois je me suis rendu compte qu'il y avait ma voix sur un morceau de Giorgio, mais une année après que le morceau soit sorti.
Ah ouais.
Et pareil, c'est un truc que j'avais fait avec Mid il y a longtemps et j'avais oublié.
Contractuellement, okay. Ça se passe comment?
Et ben, je peux te dire que je vais les faire tomber, les mecs. Non, mais en plus, voilà, écoutez, ouais. Je pense que c'est moi qui oublie très rapidement ce que je fais dans la vie, parce que je suis hyper occupée. Et voilà. Mais la noix de coco, j'avais oublié, tu vois. Ça, c'est...
Mais moi,
c'est
j'étais pas au courant. C'est
Sausage Party vibe.
Mais
ouais.
C'est...
ouais, ouais, exactement.
C'est une bonne anecdote pour mes parents. Leur, oui. J'ai fait une pub Pornhub, voilà.
Bah ouais.
Et en fait, je savais même pas, c'est Pornhub qui a sorti des sextoys. Pas sûr que ça ait beaucoup marché, du coup.
Bah oui, parce que personne n'entendait parler. Ouais, c'est ça. Parce que toi, à un moment donné, quand je t'ai rencontré, t'avais un calendrier de sextoys. T'étais full
ouais,
au courant.
C'était Dorsel qui m'envoyait.
Non, mais full sextoys.
Tu adores le cul.
C'est vrai. C'est
non,
vrai.
Non, mais du coup, c'est vrai qu'on sait pas que Pornhub, ils font des sextoys. Bah mais non. Sûrement qu'ils sont nuls.
Ils ont peut-être arrêté.
Bah attendez, mais parce que critiquez pas mes patrons, en fait. Non, mais moi, en tout cas, ils m'ont rien envoyé. Je suis pas au courant.
En tout cas, la pub est dispo. Vous pouvez aller la voir sur YouTube. On mettra le lien en description.
C'est quoi qu'il faut taper les mots?
C'est ça.
Pyjama.
Noix de coco.
Sextoy Pornhub,
ça
normalement
va
c'est
sur
ouais.
Des trucs chelous.
Mais mettez pas ça sur Google, vous mettez ça sur YouTube quoi.
Ok. Ou mettez rien sinon.
Ouais.
Allez pas voir.
On mettra juste l'extrait de la noix de coco comme ça.
Ouais, c'est sympa.
Olympe, merci d'être là.
Ben bah, merci à toi.
Je suis un peu deg parce qu'en fait t'as rencontré ma meuf avant moi.
Tout à fait, oui.
Bon voilà.
Fortuitement.
Bien sûr, il y a quelques jours en plus.
Il y a quelques jours.
J'ai fait une soirée avec elle et moi j'étais pas là.
Oui. Voilà. Attends, Olympe a rencontré ta meuf avant que toi tu rencontres ta meuf.
Exactement.
Non,
ok. Sinon elle serait pas avec Ben.
Ouais.
Non,
allez.
Mais j'étais en mode ok, donc t'es en couple depuis 3 jours et tu nous l'annonces dans l'émission.
L'annonce nulle.
Le mec beaucoup trop intense.
Je suis en couple. Allez, bonne soirée. La meuf est pas au courant par contre.
Olympe, est-ce qu'on peut dire que tu fais partie des petits protégés de Bigflo et Oli? T'as signé sur leur label avec Tiomaï et Elle au carré.
Oui, je pense que on n'a pas trop envie de mettre cette étiquette, ouais. Car nous avons tous envie d'exister par nous-mêmes.
Bien sûr.
Finalement,
bien
de
sûr.
Pas
ah bon
forcément être rattaché à des entités supérieures. Pas que ce ne soit des êtres supérieurs.
Ouais, j'aime bien entités ouais. Supérieures. Je les ai vus tous les deux avec un halo.
Non, mais tu sais, ça a fait ça aussi pour. Enfin, je trouve que des fois, on rattache un peu les jeunes projets à des trucs un peu plus gros et au final, bon, ça ne ouais. Sert pas à grand chose. Mais en soi, oui, parce que. Ils sont vachement derrière nous, vraiment. Vraiment le mot
c'est dire à quel point
ils sont vachement derrière nous et on est leurs petits protégés, on est leurs petits enfants du label.
Ouais.
C'est un peu nos papas quoi.
Mais en fait,
nos
parce
grands
que
frères.
J'ai ça parce qu'ils sont quand même
ils
présents.
Ils couchent ensemble.
Oui.
Putain. Et wow. ça c'est un scoop. Personne ne le sait.
Putain, voilà. Aïe. Ça va me retomber dessus quoi.
J'ai mon extrait TikTok, c'est bon. Ça va être repris dans Public et Voici demain, non. C'est sûr, il y a tous les titres. À chaque fois, ils reprennent juste ces infos-là. Mais est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait? Parce que je crois qu'il y a eu un peu de patience.
Il y a eu de la patience parce que. Parce qu'ils sont. Je pense qu'ils ont un problème avec le fait de répondre vite. Enfin, je pense que voilà.
C'est trop drôle comme façon
qui,
de le dire.
Qui peut vraiment passer des mois, voire des années à ne pas te répondre.
Ouais. Et je suis donc, témoin de cette
voilà.
Histoire. On doit faire une émission
c'est pour
ensemble
ça que
depuis.
Je t'en parle.
Est-ce qu'il a un TDA? Peut-être qu'il a un trouble d'attention.
Peut-être, mais je pense qu'il a, pour le coup, lui, tellement de choses dans son cerveau et à gérer et tout, qu'il y a des trucs qui passent à la trappe. Mais donc, en effet, ils m'ont envoyé des messages sur Insta à l'époque où je faisais mes covers et tout. Et ils venaient à peu près d'ouvrir leur label. Ils m'ont dit « Hey, on cherche, du coup, enfin, on a bien aimé ton projet, on cherche des projets à signer, donc est-ce que t'es chaud? On se rencontre, on se voit. » Moi, hyper cool. Ouais, grave, trop bien, Bigflo et Oli. Enfin, je les écoutais pas particulièrement, mais je connaissais et je respectais vachement le projet et tout. Donc ouais, carrément, un an sans nouvelles. Un an.
C'est-à-dire qu'il y a marqué « vu »
voilà.
Et il n'y a pas de réponse pendant un an.
C'est ça. Et du coup, un an après, Flo qui m'envoie « Hey, mais attends, on s'était vu ou pas finalement ?» Je dis « Bah non, vous m'avez mis un gros vent. » Putain, mais on est désolé, mais on est bête, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a envoyé des emojis, fleurs, bouquets de fleurs, en mode pardon, tu vois. Et c'est, voilà, et au final, on s'est vus quelques semaines après, et ça a matché.
Ouais, trop bien. Et en plus, ils ont l'air, parce que comme je disais, petit protégé tout à l'heure, c'est parce que. Il y en a, tu sais, des fois qui donnent un peu leur nom et ils créent un label et tout, mais en fait, tu les vois jamais.
Mm-hmm.
Et t'as ça aussi sur des networks, sur YouTube, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils vous suivent quand même pas mal.
Ouais, ouais, ils sont assez présents. En fait, ils essayent de nous intégrer aussi à un peu à leur projet. Enfin, moi, tu vois, j'ai fait le Planète Rap la semaine dernière et ils m'ont invité à chanter Sans Amour, enfin, ma chanson, guitare-voix et tout. Je suis arrivée sur Skyrock, j'ai fait mon guitare-voix, j'étais là, oh là là là, je suis hors thème là. Mais c'était cool en vrai, ça s'est grave bien passé. Donc, ouais, ils font ça, ils ont invité à Elle au carré aussi et tout.
T'es sur leur dernier album en plus?
Ouais.
Moi, je t'ai vu à Bercy, sur leur release.
Oui, tout à fait, Bercy. un sacré stress. Merci. Ah oui. Vraiment jeté dans la fosse au lion. Ouais, j'avais jamais fait de grosses scènes ou quoi. Et j'ai dit, du coup, on va répéter et tout. Ouais, t'inquiète, tu vas passer pour les balances. Et juste, on l'a fait deux fois. Et après, c'était, voilà, c'était waouh, trop d'émotions d'un coup. Quoi. Ouais.
Mais t'as kiffé un peu ou t'es sorti en disant, je sais même pas ce qui s'est passé?
Un peu ça. Et un peu, en fait, j'étais hyper concentrée. Il y avait un petit escalier pour venir sur scène. Un pour monter, un pour descendre. Et je me suis dit, surtout ne tombe pas. Il ne faut pas louper une marche. Et j'étais vraiment focus sur mes pas, tu vois. En mode, genre, vraiment, marcher, venir, chanter, repartir. Vraiment.
Je sens que plus tu te dis ne tombe pas, plus t'as des chances de tomber.
Oui.
T'avais des talons, enfin, t'avais des choses.
Non,
ouais, bon, déjà, non, basket. Ça facilite la vie.
J'ai demandé à mes abonnés, vous connaissez la recette, hein, chaque fois je demande à mes abonnés des questions sur la vie. Et je vous propose qu'on y réponde.
Oui. Bien sûr. Allez, la vie en général.
La vie en général. Et la première question, elle est déjà un peu deep. Sans être trop deep, comment s'entourer des bonnes personnes?
Waouh! Bah, déjà, il faut s'entourer des mauvaises personnes. Ensuite, tu les détestes et ensuite, tu passes tout au Karcher. Et là, il reste trois personnes et t'as 30 ans après. Ouais.
C'est exactement ça.
T'as 30 ans de manière vraiment pessimiste.
Mais le prends pas perso. Attends.
Non, mais c'est vrai, t'as raison.
On a bientôt 30 ans aussi, on se la pète, mais on n'est pas très loin du compte, hein, quand même. Donc,
ouais, peut-être Pauline, toi, Olympe, moins quand même.
Toi, t'as quel âge?
Moi, je vais avoir 24 dimanche.
Oui, donc t'es un peu plus jeune.
T'es un bébé, on a 26. Tu vas passer le bac. Non, mais parce que moi, j'ai 26 ans et j'ai l'impression d'avoir 34 ans.
Bah oui, non, mais c'est pour ça, on n'est pas
c'est
très
C'est la
loin,
veste, hein. Je pense.
C'est la veste. C'est 10 ans de plus.
Ouais, mais donc s'entourer, bah, je pense que toi, t'as pas mal de choses à dire sur, sur l'entourage, parce que t'as changé.
Moi, j'ai changé plein de fois, mais pas... Oui, en vrai, c'était un bon résumé. Je pense qu'au début, quand tu... Oula, j'ai frappé
T'es
un
pas habitué au micro, je pense, c'est pour ça.
Mais au début, quand tu commences dans la musique ou même dans la vie en général, j'ai l'impression que genre, même si tu fais un métier qui n'est pas artistique et que tu travailles dans n'importe quel milieu, au début, tu vas accepter de travailler avec des gens, pas par choix, mais juste parce que ces gens-là s'intéressent à toi. Et du coup, c'est juste le début de n'importe quelle carrière. C'est genre, il y a des gens qui te contactent et qui montre un intérêt pour ton projet. Et en fait, t'as pas vraiment 1000 options. Enfin, moi, je sais qu'au début, j'avais pas 75 options de manager, de label, de tourneur. Et que du coup, j'ai dit, bah ouais, évidemment, si vous voulez travailler avec moi, moi, je veux travailler avec vous. Et en fait, c'est vrai que ça crée des expériences parfois désastreuses. Et ça fait que ensuite, tu peux réadapter et savoir ce que tu veux. Mais en fait, c'est hyper dur de bien s'entourer parce que bien s'entourer, ça veut dire savoir exactement ce que tu veux représenter dès le début de ton projet et tout. Et donc, au début, il y a forcément des loupés, quoi. Moi, j'ai eu plein de managers différents. Après, j'ai pas eu de manager pendant 3 ans. J'étais ma propre manageuse et c'était hyper intéressant, mais c'était épuisant. Aujourd'hui, maintenant, après, franchement, ça a pris hyper longtemps. Et c'est vrai que ça prend des années et des années. Je sais... quelles sont mes valeurs, quelle est ma personnalité. Et donc, en fonction, je peux identifier un peu les gens qui pourraient être les bonnes personnes pour... Et encore, à ce jour, il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas mon projet, tu vois. Et que, okay. Bah ouais, parce qu'en fait, ça prend hyper longtemps. Et aussi, t'évolues au fur et à mesure. Donc, parfois, il y a des gens, tu les rencontres et t'es en mode, yes, on est grave sur la longueur d'onde. Et puis, en fait, 2 ans plus tard, t'es là genre, mais en fait, pas du tout, enfin... Parce que toi, t'évolues et qu'eux évoluent dans un autre truc. Moi, j'ai fait plein d'erreurs aussi. J'ai parfois voulu à tout prix travailler avec des femmes parce que je me disais c'est plus safe. Et en fait, il y a eu des femmes avec qui j'ai travaillé qui étaient peut-être plus safe que des hommes, mais qui, du coup, ne comprenaient pas du tout ce que je voulais faire. Okay. Et qui, à l'inverse d'un gars qui était un gars, bah, en fait, lui, il captait vachement plus. Enfin, tu vois, genre, c'est beaucoup de d'essais-erreurs, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Mais c'est pour ça que c'était très bien résumé. Là, moi, c'était la version plus théorique, mais...
Merci.
Mais ouais.
Oui, donc le passage obligé, c'est de tester, en fait, quoi.
Ouais.
Pas savoir,
après, je sais pas, moi, je sais que ma toute première expérience, à 17 ans, j'ai fait La Nouvelle Star. Et donc, du coup, c'était la première fois que je chantais. Et c'était la première fois que j'étais entourée d'adultes. Mmh. Et
t'arrivais
en fait...
troisième, et c'était avec Mathieu et Isolt.
Avec Mathieu et Isolt, ouais, tout à fait. Et du coup, j'ai découvert ce monde-là où en fait, on me donnait pas trop la parole, j'avais pas trop le droit de choisir comment je m'habillais, ce que je chantais, tout ça. Mais en fait, ce qui a été était trop bien, c'est que je suis sortie de là, j'étais genre une boule de nerfs. Et en fait, je me suis dit, plus personne me dit comment je m'habille, plus personne me dit
une
quoi faire.
Une boule d'amour.
Et j'étais aussi une boule d'amour, mais cachée dans une boule de nerfs, parce qu'en plus, j'avais pris du poids à l'époque, donc j'avais un corps dans un corps. Et en fait, je suis arrivée vraiment dans le milieu de la musique en disant, moi, personne me dit quoi faire, ok. Alors que les gens étaient là, hyper chill, en mode, ça vient, on veut travailler avec toi. J'étais en mode, personne me dit quoi faire ici. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir cette espèce de bouclier de sortie de télé où en mode j'avais tellement vu un truc hyper fake et hyper dirigé, j'étais un peu une petite poupée en plus parce que j'avais 16-17 ans, que du coup je suis vraiment arrivée armée et j'ai eu la chance de tomber que sur des gens, je pense que j'ai toujours choisi peut-être les gens pas forcément les plus efficaces et pas les plus requins, mais les par contre les plus sympas, et je me suis dit ça peut durer très longtemps comme ça parce que on est un peu des bisounours, mais enfin, tu vois, si on nous marche sur les pieds, on va faire genre pas cool. Pas cool.
C'est marrant parce que ça t'a servi, quoi, finalement, l'expérience grave. Un peu relou de la télé et tout. Et...
Ouais. Après, du coup, j'ai toujours ce truc de pas aimer retourner à la télé. Et il y a plein de trucs dans le monde de la musique et dans le monde des médias qui m'horripilent un petit peu. Mais j'ai l'impression que je me suis autorisée moi-même à être assez brute et assez... honnête, et du coup je me sens plus obligée de jouer un rôle ou quoi, je me dis je m'en fous. Et puis c'est vrai que j'ai jamais eu le rêve en fait de faire de la musique, et du coup j'avais un peu ce truc de je peux tout envoyer balader, au pire moi je fais de l'illustration à côté, et je me suis dit c'est vraiment ça mon métier à la base. Et donc j'avais
c'est
ce
rassurant.
Truc de si quelqu'un si vraiment je commence à pas me sentir bien dans le milieu, je quitte et je vais devenir prof d'art plastique avec ma veste.
Avec ça dirait hyper bien en vrai.
Mais ça, est-ce que c'est pas le meilleur moyen pour que ça marche, en plus, le fait de pas avoir d'enjeu?
Ouais, mais c'est pas un choix, parce que je sais qu'il y a des gens, quand c'est leur rêve et qu'ils bossent toute la journée. Moi, c'est vrai qu'au début, quand j'ai eu des propositions de label, j'étais en mode, c'est quoi un label? Je savais pas ce que c'était une basse, je comprenais rien, en fait. Et du coup, j'ai des potes qui m'ont dit, en vrai, t'as eu vachement de chance, parce que t'es arrivé. Le premier concert que j'ai fait, on m'avait dit, il y a tel mec, ils sont hyper importants. Et moi, je les connaissais pas, donc j'en avais rien à foutre, j'étais pas stressée et tout. Mais c'est vrai que je me rends compte, j'ai été hyper privilégiée, et ça, genre ça, je l'ai grave compris plus tard, en fait. Au début, je me disais juste, genre, j'ai de la chance. Après, je me suis dit, j'ai de la chance parce que...
Oui, c'est rare que ce soit léger quand tu veux faire de la musique. En général, c'est genre un truc de l'âme où t'es en mode genre, moi, je pourrais crever pour la musique et tout. Enfin, c'est hyper intense. Et c'est vrai que... Mais en même temps, j'ai l'impression que n'importe qui, même si tu fais pas de l'illustration ou que t'as pas un... On peut se forcer à se mettre dans cet état-là, mais c'est compliqué. Du coup, c'est pas naturel, quoi. C'est genre... Je disais pendant longtemps que je voulais être professeur d'anglais. Mais même, j'étais intermittente du spectacle et tout, et je disais, non, mais moi, en fait, je vais être professeur d'anglais. Genre, vraiment, les gens, ils me disaient, donc, tu fais de la musique? Je disais, non, moi, je suis professeur d'anglais, mais pas encore.
Genre, tu croyais ou tu te donnais...
mais c'était juste, c'est ça, c'est une espèce de sécurité.
Ouais.
Et en fait, c'est genre... je sais pas si c'est un truc... Je pense que c'est un mélange de l'extérieur et de la vision... social de ce que c'est que d'être un artiste quand t'as 19 ans et que tu commences et que les gens ils sont en mode ouais bien sûr comme ça tu vois, ou alors même un truc intérieur de moi qui assumais pas de vouloir vraiment faire ça et d'être hyper perfectionniste et de me dire je peux pas dire aux gens que je suis musicienne si je suis pas hyper connue et tout, enfin genre il y a un truc qui est pas évident dans comment tu te présentes au monde quand t'es artiste, donc c'est trop bien d'avoir une autre passion, mais j'ai l'impression que même si tu l'as pas de base, c'est un truc qui peut être développé aussi de dire genre dans ma vie et dans ma personnalité, je laisse de la place à autre chose.
Ouais, moi, tu peux pas tout miser sur la musique, moi, sachant que c'est archi bancal et que c'est ça, t'as une année où t'as tout qui te sourit. Et puis après, même pendant le Covid, en fait, il y a plein de gens qui se sont mis à dire il faut peut-être que je trouve un plan B.
Voilà, c'est ça, de toute façon, pour n'importe qui, même si t'as pas une réelle autre passion, c'est important. Enfin, moi, c'est un truc que j'essaie de faire, que j'arrive pas du tout à faire d'ailleurs, mais de cultiver d'autres choses. Et de se définir autrement que par ton projet, genre en mode, moi, en fait, je suis mon projet de musique, tu vois. Et en fait, c'est dur de pas faire ça, parce que c'est dur d'y arriver sans mettre toute ton énergie dans ce projet-là.
Ouais,
quoi.
C'est ça, en vrai. Moi, je suis plus... je comprends, mais j'ai eu tellement d'exemples autour de moi, d'enfants, de camarades ou quoi, qui ont été... qui avaient des aspirations artistiques et qui ont été poussés par leurs parents à faire... des études de marketing ou de médecine ou quoi, pour dire, comme ça au moins t'as une sécurité, tu peux faire un peu ça à côté, mais t'as un vrai truc solide. Ce qui fait que, au final, toute leur énergie a été dispatchée et dans leurs études et dans leur essai de faire de l'art et tout. Et aujourd'hui, il n'y en a aucun qui vit de sa passion ou quoi. Et ils sont tous... j'ai l'impression qu'ils sont tous dégoûtés, tu vois. Enfin, je sais pas, ça m'a trop fait de la peine juste de voir parce que c'est tellement dur, comme tu dis, genre, si tu mets pas toute ton énergie dedans, il y a peu de chances en vrai que ça marche, que ça décolle, que t'arrives à en vivre en gros. Et
toi, t'arrives à voir le switch pour toi qu'il y a eu? Parce qu'à la base, tu faisais des covers beaucoup sur, sur Insta.
Ouais. Bah, en fait, moi, à la base, je voulais pas faire que de la chanson, enfin, que de la musique. Okay. J'ai fait des études de comédie musicale. Donc, j'ai fait genre 2 ans au conservatoire, 1 an en classe libre à Florent, au Théâtre Mogador. Et franchement, c'était trop bien. Je crois que c'était les, pour l'instant, les 3 meilleures années de ma vie. Genre, okay. C'est là où j'ai rencontré genre, plein de mes amis. Je faisais vraiment, je faisais de l'art toute la journée, quoi. On avait des cours de chant, de danse, d'interprétation, de chœur.
Est-ce que c'est la série Undo Stress ou pas?
Oui,
c'est moi, ça me fait rêver en vrai. Non, mais ce que tu racontes,
c'est Undo Stress en mode français quand même. Tu vois, c'est moins stylé.
Il y avait pas de Pablo et de, voilà. Et de Juan.
Exactement.
1, 2, 3, vraiment.
Mais c'était grave 1, 2, 3. Mais c'était un super 1, 2, 3. Et en vrai, déjà, faire du sport, faire de la danse toute la journée, pour le moral, c'est incroyable.
Ouais.
Et
jamais expérimenté ça.
Fut un temps.
Ouais, grave.
Le yoga et tout.
Ouais.
Fut un temps, je faisais vraiment du sport tous les jours, quoi. Et aujourd'hui, plus du tout. Mais bon. En fait, à la base, je voulais être comédienne. En même temps, je voulais être chanteuse. À un moment, je me suis dit, j'ai pas envie de choisir. Donc, je vais faire de la comédie musicale. Après, j'ai dit, c'est trop bien, c'est ça que je veux faire. Et j'ai toujours su que je voulais faire un truc artistiques qui me permettent, moi j'adore interpréter aussi, donc c'était mes cours préférés, tu vois, donc je pense que je me suis tournée après vers ce qui a marché en fait, enfin tu vois, j'ai eu des opportunités dans le monde musical pur, donc je me suis dit let's go, vu que en vrai le monde du spectacle en France en comédie musicale c'est archi bouché, genre c'est trop dur de vivre de ça et tout, je me suis dit go. Là, j'ai des opportunités de faire de la musique. J'avais déjà écrit des chansons à moi, etc. Donc, je me suis dit, vas-y, on y va. Et j'ai sorti mes 2 premiers sons. En fait, c'est le fait que les covers aient marché qui m'ont donné une assurance de me dire, il y a des gens qui vont m'écouter. Je vais peut-être pouvoir lancer un truc là-dedans. Et au final, ça a marché. Après, j'ai signé dans le label et tout. Et aujourd'hui, maintenant, je fais plus que ça. En plus, il y a eu le Covid, donc mes études, c'était genre ciao.
Okay.
Et donc aujourd'hui, je fais plus que ça. Et ça demande beaucoup d'énergie. Ouais. Mais à terme, moi, j'adorerais faire tout, en fait. Tu vois, genre faire une comédie musicale, être au cinéma. Tu vois, genre, mon père, il fait de la réal. Et du coup, il m'a fait, depuis que je suis petite, avec ma sœur, il nous fait jouer des trucs, des courts-métrages, des scènes et tout. Et genre, je kiffe ça aussi et j'aimerais trop, en vrai, faire ça en même temps. Je sais qu'en France, c'est un peu... T'es un peu dans des cases, genre, tu peux pas trop tout faire. C'est un peu chelou. Dès qu'il y a quelqu'un qui chante au ciné, on dit « Ah, mais c'est une chanteuse qui joue » ou « C'est un comédien qui fait du rap » ou machin. Enfin, genre, tu sais. Et je trouve qu'aux États-Unis, ils sont vachement plus libres sur ça. Genre, tout le monde apprend... Enfin, quand tu veux faire de l'art, t'apprends en vrai un peu tout type d'art. Et après, tu fais ce que tu veux et c'est OK. Juste, moi, j'aimerais trop arriver à cette étape-là, quoi. Mais pour l'instant, bon, on est déjà sur une grosse étape.
C'est bien, déjà.
La grosse étape musicale, on voit déjà...
Moi, j'ai une culture zéro en comédie musicale et je suis allée voir Starmania.
J'allais en parler parce que...
Oh, la claque. Et alors, c'est
le
parce
bonheur
que
absolu.
Moi, j'y suis allée, je savais pas du tout ce que j'allais voir. Je croyais que c'était genre comme les trucs années 90 et qu'en fait... il y a plein de gens qui allaient faire qui allaient venir et chanter des tubes des années 80.
Mais n'importe
et en fait
quoi.
J'ai compris le truc et j'ai fait waouh, et en fait j'ai envoyé un DM parce qu'il y avait un des gars qui me suivait et je lui dis bravo pour ton rôle là. Et le gars m'a répondu merci beaucoup, mais ce soir j'étais pas dans ce rôle là, j'étais dans le rôle de un tel et tout.
Oui,
et
change.
Je me suis dit mais en fait c'est déjà ouf d'avoir un perso, t'as les chorés, tu connais tous les titres et tout, mais en fait quand c'est interchangeable ils font ça tous les soirs, mais c'est ouf.
Moi je suis rarement touchée par les voix vraiment genre hyper techniques et tout, et là ma mère m'avait offert ça pour Noël, ce qui est genre le meilleur cadeau pour moi parce que moi j'écoute Starmania en continu et plein de gens qui détestent dans mon entourage, mais moi je suis tout le temps là genre dans ma salle de bain et tout.
Tu connaissais l'histoire déjà?
Ouais, je connaissais, mais c'est vrai qu'il y avait des personnages, par exemple le personnage de Stella, il me semble, je m'y étais pas vraiment intéressée, et en fait là c'est vraiment celui qui m'a le plus, enfin c'est celle qui m'a le plus touchée dans la comédie, et en fait c'est vrai que cette espèce de technique vocale, genre c'est moi vraiment c'est pas un truc qui me touche d'habitude, mais là ça me, genre j'avais des frissons, j'avais des larmes aux yeux, j'étais là mais la meuf est en train de sortir mes organes de moi. et je me suis dit n'importe qui, même qui est pas trop comédie musicale, Jacques Demy, tout ça, je pense que n'importe qui peut être touché par ça, et c'est vrai que c'est en plus des sujets et une histoire qui vieillit pas du tout, en fait l'histoire de Starmania, et là en plus c'est remis au goût du jour par Thomas Joly. Mais
Il y a une ambiance un peu Gotham City.
Ouais, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Batman aussi.
Ouais.
Moi, j'ai pas vu. Mais je crois qu'ils vont le refaire à Paris, non? Parce que j'ai pas
Oui, oui, ils reviennent. Ils reviennent, reviennent en novembre,
moi,
il me semble.
Moi, ce sera en 2026, du coup, quand ils vont revenir après 8 ans de, de tournée dans toute la France.
Ouais,
ils seront bien rodés. Ou crevés, peut-être.
Ouais, non, j'ai pas vu encore, mais j'ai hâte de voir. Mais en fait, moi, je connais pas très bien l'histoire. Moi, je suis un peu comme toi. Je suis un peu genre.
Mais tu vas découvrir et après, tu vas écouter que ça pendant.
Non, mais je connais les chansons.
Oui, parce que c'est ça. En fait, moi, je connaissais les chansons.
Sorti le CD.
Oui. Et en fait, j'ai compris les chansons. Parce qu'en fait, tu vois dans le contexte de quelle personne.
C'est ça, moi je connais toutes
moment,
les chansons et je connais pas du tout, par contre, l'histoire de la comédie musicale. Mais les chansons sont magnifiques, donc en vrai. Ouais.
Si puis la scénographie, elle est folle. Il y a des trucs, vraiment, j'ai pété un câble.
Mais en fait, moi, je suis allée à Londres. Justement, à Londres, ils sont full, grosse comédie musicale et tout. Et
Mamma Mia.
Non, mais par contre, à Londres, et d'ailleurs aussi à New York et à Broadway et tout, et pas du tout en France, c'est vrai ce que tu disais. J'ai vu un spectacle sur la sorcière dans Le Magicien d'Oz qui s'appelait Wicked. Genre, c'est le spectacle sur la sorcière verte.
Ah oui.
Et en fait, c'était moi, ça m'a transcendée et après, je devais fabriquer ma scénographie de ma tournée là. Et genre, je disais à mon tourneur, mais moi, je veux un pont qui aille de la droite à la gauche et je veux qu'il y ait des trucs qui apparaissent et tout. Et je t'en demandais pourquoi eux, ils ont ça et dans la musique, on n'a pas ça. Alors que et après, ils m'ont dit, parce que c'est très cher.
Et ils restent sur place pendant genre
exactement,
un mois.
Exactement, c'est
et
ça.
Coup,
et en fait, exactement. Et c'est surtout que c'était genre un immense théâtre, tu vois. Je sais pas, il devait y avoir. 3000 personnes et c'est tous les soirs pendant un an, tu vois. Et donc en fait, c'est une autre économie et c'est pas du tout comme faire une tournée où tu dois transporter tout ton matériel dans un camion de date en date et où, bon, à part si t'es vraiment très connu, tu joues pas devant 3000 personnes par soir, tu vois. Genre, et ça m'a vraiment, j'étais en mode, mais c'est incroyable, genre, j'ai trop kiffé. Et pourtant, je suis pas trop sensible à la comédie musicale de base et tout. Et ça m'a donné envie d'aller en voir plus. Et en tout cas, à Londres et dans les pays anglophones, il y a une valeur qui est donnée à ce type de spectacle qui, en France, j'ai presque les gens ils rigolent de la comédie musicale.
Après c'était à une époque aussi il y avait beaucoup les rois du monde, Roméo et Juliette, c'est ça.
Il y a eu Robin des Bois aussi,
le roi soleil, tout ça, ça avait mauvaise réputation parce que c'était
c'était grave cheap dans la tête des gens. Moi j'avoue, j'ai jamais donné de la valeur à
si Mozart l'opéra rock, je pense.
Si Mozart l'opéra rock,
t'as donné de la valeur,
tout ce qui était gothique, oui,
t'as tout moi sur tes seins, t'as donné de la valeur, je pense.
Ça, du coup, il y avait un vrai show. C'était une vraie
j'en ai aucune idée.
C'était un vrai show.
Il y avait un show.
C'est Olympe, la professionnelle en comédie musicale.
C'est la référence.
Deuxième question. Quelle est votre plus grande source de stress?
Voilà, ça m'a stressé la question. Ça fait genre.
Vous êtes des gens stressés
mais
de base.
Mais attends, parce que moi, je différencie pas souvent le stress et l'angoisse. Parce que moi, j'ai une angoisse profonde de vivre, mais par contre, stress.
C'est différent, ma belle.
Stress, ça peut être positif.
Mais
en fait
j'ai l'impression que. Bon, après, ça, c'est moi, je suis très dictionnaire, genre vraiment en mode théorie. Non, mais j'ai l'impression que le stress, c'est lié à des événements précis. Genre, t'es stressé par un concert, un événement, et que l'anxiété ou l'angoisse, c'est vraiment justement le propre, c'est que tu sais pas trop pourquoi. Et du coup, la question, est-ce que c'est source de stress en mode genre événement, tu vois, qu'est-ce qui peut être un événement qui te met en stress, ou bien l'anxiété du quotidien, parce que je pense qu'on est toutes les trois sujettes au stress et peut-être à l'anxiété, étant donné qu'on fait de la musique et que voilà, et qu'on crée
des
choses.
Femmes.
Ouais, et qu'on est un peu des, du coup, en dessous, tu vois, quand on est des femmes. Du coup, voilà, il y a deux trucs différents. Mais source de stress, c'est dur.
Moi, je sais, je pense que c'est quand je dois faire un truc pour la première fois et que j'ai pas le droit d'improviser. Quand je dois faire du par cœur. Parce que moi, en fait, ce qui me déstresse quand j'arrive sur scène, genre l'autre fois, je suis arrivée sur scène et j'ai dit, je crois que je me suis un peu pissée dessus avant de monter sur scène. Et ça me met dans une ambiance où je me dis, les gens peuvent pas me prendre au sérieux. Okay. Et du coup, c'est chill. Mais par contre, quand j'arrive et que je dois être un peu sérieuse ou dans l'émotion, ou j'ai joué une fois dans un court-métrage où je devais faire semblant de savoir jouer du piano et tout, là, vraiment, la veille, j'ai pleuré pendant 4 heures et je me suis dit, je vais jamais y arriver.
Quand il y a un cadre, en fait, du coup, presque.
Un cadre et où j'ai pas le droit de faire des blagues. Quand je dois vraiment être sérieuse. Et genre l'école, en fait. Ouais. L'école, un carnage pour moi, parce que en fait, les profs, ils rigolaient à mes blagues, mais après, ils me mettaient des avertissements. Et du coup, j'étais là pour nickel. Hâte de partir.
Parce que ça t'arrive souvent, du coup, de devoir faire des trucs vraiment très cadrés.
En fait, j'ai jamais. Je pense que c'est un peu pareil pour vous, mais moi, j'ai jamais les mêmes semaines. Et en fait, on me propose très souvent des trucs et j'aime pas dire non. Et donc, du coup, j'aime tester des choses. Sauf que ça m'arrive de dire oui dans des périodes où je suis hyper up et et je suis là genre ah ouais on va tester des trucs et après bah comme je vous disais tout à l'heure je reviens de Montréal, je dors une heure et là je dois aller à France Inter pour faire une comédie musicale avec un orchestre symphonique et 300 personnes dans la salle et je dois réciter un texte, je dois chanter des chansons, je dois me souvenir des pas et tout et là c'est genre bah pourquoi j'ai accepté ça en fait. Mais après une fois que c'est fini t'es trop fière de toi et puis tu dis bah, j'ai rajouté ça à ma liste de vie. Moi j'aime bien me faire chaque année des trucs différents et j'ai un petit problème avec le quotidien, ouais. tout ce qui est trop la routine, ma phobie, même si je commence à apprécier parce que comme je suis jamais chez moi maintenant, dès que je suis chez moi j'ai ce truc de kiffer, tu sais, avoir une vie un peu normale, genre en mode je vais dans le métro avec les gens, je fais genre j'ai un vrai travail, tu sais, je suis ah putain
mets ta veste,
je suis en retard, je suis grave en retard alors qu'en fait je vais m'acheter un truc. Mais voilà. Putain. Et vous, le stress, c'est où, c'est quand?
Bah toi, vas-y, comme ça je réfléchis encore. Okay. Moi, je suis tellement stressée par plein de trucs que je vais en choisir un seulement.
Moi, je pense que, bah, pour revenir sur Starmania, c'est les auditions. Hein.
Ah ouais.
Ouais, je pense que j'ai jamais été aussi stressée qu'avant de passer une audition ou un casting, parce que j'en ai passé genre des centaines, je pense, des castings et pour des films, des séries, des pubs, des machins.
Je t'ai vue dans une pub, c'est vrai.
Ah oui, l'avion.
Oui, l'avion, voilà. Je me suis dit, mais jamais je pourrais faire un truc comme ça. Je trouve ça, mais surhumain, quoi.
C'est hyper bien payé.
Bah ouais, j'imagine. En plus, t'es dans un avion et tout. Non, c'est sûr qu'il vaut. Bah non, il volait, c'est sûr.
Non, mais ouais, les auditions. Et d'ailleurs, moi, je suis toujours pas allée voir Starmania parce que je suis en processus. J'ai encore le seum de pas avoir été prise pour le rôle de Crystal.
Ah, moi, j'ai fait pour Marie-Jeanne. J'ai pas été prise non plus.
Ah, vous avez fait
loser. Énorme loser. Mais toi, t'aurais jamais eu le temps, ma belle.
Ben, ouais. Je sais pas, j'aurais pas été prise parce que je suis à cette table avec vous, donc le hasard aurait bien fait les choses.
Ouais, ouais. Mais et toi pour Crystal? Ah, mais Crystal, elle hurle en plus.
Ah bah, gros Monopolis, je peux plus me l'entendre, vraiment.
Ah ouais.
Ouais, c'est intense, mais en fait, j'ai l'impression que tout Paris, enfin, à l'époque, moi, j'étais encore en classe, tout Paris a passé cette... Ah
ouais. Ça devait être l'angoisse totale.
Et personne n'a été pris. C'est un peu un rêve de chanteur de chanter ça,
ah bah,
quoi.
Grave, on était tous comme des fous. Même nos profs nous disaient, putain, j'ai pas été pris et tout.
Ah, vraiment
là, mais les qui pauvres. Vont prendre?
Parce qu'il y a beaucoup de... Il y en a énormément des musiciens et des comédiens.
Ah ouais,
et
ils
sont beaucoup.
Ah, c'est une grosse équipe. Enfin bref, du coup, ouais, les auditions... Surtout les auditions de danse, la danse dans tout le spectre artistique, c'est un peu mon point faible. Et même si j'adore danser, et vraiment les auditions de danse où t'es là, t'es dans la salle où tu peux voir l'audition, t'es censé t'étirer et tout, et tu vois ce que tu vas devoir faire, et t'es là, oh putain.
Je vais y aller.
Ok, et là, t'sais, la boule là qui s'étend dans le ventre, et t'es en mode... Oh waouh, ça va être dur, ça va être très dur. Tu vois les doubles pirouettes, les grands jetés, t'es là. Oh, putain,
mais j'ai l'impression que globalement, en fait, on stresse pour tous les événements où on se met psychologiquement de l'enjeu.
Ouais, moi c'est ça, j'allais dire. Moi, mon plus grand stress, c'est de décevoir les gens. Mmh. Et du coup, ça englobe tellement de situations. Mmh. Bah non, mais en fait, ça englobe certains spectacles, ça peut englober des auditions, ça peut être tes parents. Enfin, tu vois, genre moi, c'est n'importe quelle discussion ou événement où je peux potentiellement décevoir. Ouais. Et il y a un truc, moi, qui. Oula. Mais je fais n'importe quoi.
C'est pas facile de le gérer.
T'as trop de films.
Attends, elle est sous ton pied. Voilà, c'est bon. Elle était sous ton pied en mode coincée. Elle me met des petits
sabotages.
Imagine au cours de l'émission, t'es comme ça, genre.
Hey. Ouais. Et après, je suis sous la table. Genre, ah, Pomme, elle est partie, elle a un rendez-vous.
Non, mais genre, moi, j'ai un truc où souvent, je finis par faire une crise d'angoisse après, genre, des mois. Et en fait, toujours, il y a ce truc où je dis, ben, tout le monde attend quelque chose de moi, tu vois. Genre, où j'ai l'impression que de toute façon, dans toutes les décisions qu'on a à prendre dans cette vie qu'on mène, cette vie d'artiste, il y a toujours plusieurs côtés. Et moi, il y a un truc de dualité beaucoup dans mon esprit, de dualipa, en fait. Dans mon esprit.
Tu es dualipa française.
C'est moi.
La dualipa,
c'est exactement
française.
Moi. Et ouais, même style de musique, pareil, même énergie, quoi.
Même physique, en fait,
ouais,
surtout.
Bah,
moi,
carrément.
Je me confonds tout le temps.
elle est, ouais, je l'adore, par contre, par ailleurs. Mais, et donc, souvent, les petits stress qui s'accumulent finissent par faire une crise d'angoisse. Et dans ma crise d'angoisse, c'est genre, mais en fait, si je dis oui à tel truc, bah, je me respecte pas, j'ai pas envie de le faire. Mais par contre, la personne en face va être contente. Mais si je dis non, bah, la personne va être déçue. Et en même temps, moi, j'ai pas envie de le faire sur le moment. Mais peut-être que dans deux semaines, je vais regretter et tout. Et il y a ce truc de décevoir et de devoir correspondre aux attentes. Tu vois. Moi, ça c'est mon plus grand. Et finalement, c'est lié au regard des autres et tout. Et ça peut pas passer par des petits stress, mais qui, en fait, au final, sont liés à la grande mère nourricière de l'anxiété de ma vie, qui est, genre, la peur de, ouais, de décevoir, ouais. De, genre, et souvent... quand je suis avec quelqu'un, bon, c'est rare que je fasse une crise d'angoisse devant les gens parce que je veux que les gens pensent que j'ai pas d'émotion, tu vois. Mais quand je suis avec quelqu'un, je finis toujours par dire à cette personne, genre, ben en fait, là, je suis en train de faire une crise d'angoisse parce que je sais qu'il y a des gens qui sont déçus de moi à des moments, mais c'est obligatoire et j'arrive pas à l'accepter, tu vois. Genre, et que ça peut être des gens qui attendent après un concert pendant 3 heures et que, en fait, je suis trop fatiguée pour aller leur dire bonjour, tu vois. Ça
peut... donc, les gens les attendent, concerts, et toi, t'es en train de faire une crise d'angoisse dans
ta
loge.
Non, mais c'est un truc que sur le moment, je dis non, en fait, pour me respecter, j'ai pas envie ce soir d'aller signer des trucs, mais un mois après, ça va s'accumuler avec 10 autres situations. Ouais. Et je fais genre, mais en fait, c'est horrible parce que je pourrais jamais correspondre aux attentes de tout le monde. Et, genre, et tout le temps, à chaque fois, je pense à une chanson de Billie Eilish qui dit Everybody wants something from me now, ou je sais pas quoi. Mm. Genre, en gros, elle dit que genre son métier, c'est sa passion, c'est devenu son métier, que c'est devenu son gagne-pain, et que depuis ça tout le monde attend quelque chose d'elle, et qu'il y a plus vraiment, enfin il y a une chanson, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Everything I Wanted ou je sais pas quoi.
Les gens l'auront.
Ah oui.
Voilà.
Mais je pense qu'aussi, moi, pour te connaître un petit peu, en fait, j'ai l'impression que ce qui est très, très bizarre au niveau santé mentale dans ces métiers, c'est que, genre, il y a Claire qui est là et autour d'elle, il y a, genre, beaucoup, beaucoup de gens et tout. Et toi, en fait, tu dois prendre toutes les décisions. Et parfois, c'est des énormes trucs. Et puis, parfois, tu sais, on reçoit des textos, genre, le week-end. Et il faut prendre plein de décisions et tout. Et en fait, c'est cool d'avoir le pouvoir. Mais c'est aussi le moment où, dès qu'il y a un truc qui on va te dire c'est toi,
c'est ta faute, c'est
ton entreprise, c'est ton truc. Et moi, même à ma plus petite échelle, parfois je me dis mais en fait j'ai trop de, il y a trop de choses à gérer, parce que c'est du travail, c'est de la représentation, c'est le physique, c'est la voix, c'est, il faut rester créatif.
Il y a beaucoup de déceptions possibles quand même.
Ouais, mais après, ouais, moi j'avoue que je suis de moins en moins carriériste, parce que je me rends compte que ça me rend pas heureuse, et donc du coup je mets la barre très très bas, et dans tout ce qui se passe, c'est du bonus en fait.
De toute façon, toi, tu veux être prof d'art plastique.
Oui, c'est pour ça.
Ah ouais, d'ailleurs, vous pouvez m'inscrire directement à la formation, que je perde pas de temps.
Typiquement, je sais que. Alors, moi, j'ai jamais passé de casting, mais j'ai fait beaucoup d'entretiens d'embauche pour beaucoup de travail différents.
Ouais.
Et en fait, tous ceux que j'ai eus, c'est ceux que je voulais pas.
Parce que je
mettais tellement zéro en jeu que j'arrivais chill. Des fois même, j'essayais de boycotter un peu le truc, mais en fait, je paraissais tellement à l'aise et peu stressé.
Sinon, t'aurais pu juste pas y aller si tu voulais pas travailler là-bas.
Pôle emploi, des fois, il faut malheureusement.
Ah oui, Pôle emploi.
Il faut montrer pas de blanche, comme on dit dans le jargon.
Monsieur Paul.
Exactement. Et donc, j'ai été pris très souvent dans des jobs que je voulais pas à la base.
Et tu les as fait ou pas?
Ouais, la plupart, je les ai fait. Ouais.
Okay.
J'ai fait
des jobs.
Tu peux en citer un?
Je peux en citer un, mais je vais paraître très vieux. J'ai été chargé de communication interne chez ERDF. Donc ERDF n'existe plus, s'appelle Enedis maintenant.
Ah oui, oui, c'est l'énergie.
C'est ça. C'est quand on a ouvert la concurrence EDF, il y a eu ERDF, voilà. Et donc j'ai détesté, je suis resté 4 mois, j'ai démissionné.
Boring.
Et après, j'ai fait beaucoup de démarchages téléphoniques aussi, des trucs comme ça.
Ça veut dire qu'on t'a énormément raccroché à la gueule.
Oui, en termes d'ego, ça fait du bien.
Bah oui, au final, parce que c'est des gens que tu connais pas, donc tu peux pas le prendre personnel. Et en même temps, c'est genre, ok, bah en fait, on veut pas de moi et c'est pas grave.
Exactement. Est-ce que du coup maintenant, quand on te fait des trucs téléphoniques, tu restes parce que tu te souviens que c'était...
Franchement, je suis hyper sympa.
T'es sympa, tu restes un peu.
Alors,
un peu
je pense trop. En vrai, je suis. Ouais.
Écoute, là, ça fait une heure, j'ai peut-être accroché.
Ça m'est déjà arrivé de dire, ah, je suis pas intéressé et tout, et de dire, mais ça va la journée.
Parce que, et là, le mec se met à pleurer.
Ça m'est déjà presque arrivé, ouais. Mais souvent, dans les taxis, dans les trucs, enfin, je discute souvent avec les gens. Mais du coup, ça m'a aidé aussi avec le métier que je fais là, parce qu'en fait, organiser des tables avec des invités et tout, il y a quand même beaucoup de gens qui te répondent pas, ou c'est le temps qu'on organise et tout.
Oui.
Et je crois que j'ai vachement mis mon ego de côté, tu sais, j'ai pas un espèce de truc de pourquoi. Ça m'arrive des fois, mais.
Notamment avec Oli.
Avec Oli, on essaye. Je sais,
maintenant que.
Bien sûr. Je dois faire une vidéo avec Oli depuis très longtemps, mais il a un planning.
Il est pas dispo.
Un gros planning.
Ils habitent toujours à Toulouse ou pas?
Ils habitent toujours à Toulouse, ouais. Okay, ils font des petits allers-retours.
Déjà, s'ils sont pas. Ouais. Toulouse, c'est loin en vrai, déjà.
Ouais.
C'est pas après, pour les excuser, mais.
Dans son freestyle, là, j'ai regardé son freestyle de 10 minutes, je crois que c'est dans celui-là où
il dit
qu'il
habite
pas propriétaire.
À l'hôtel, oui.
Qu'il habite à l'hôtel à Paris, ouais.
C'est vrai.
Ah oui, bah oui, oui. Bah...
Il veut pas s'installer, ouais, peut-être. Ouais. Il veut pas d'attache.
La peur de l'engagement.
Ouais, très simple, très simple.
C'est pour ça qu'ils répondent pas aux messages aussi. Moi, je comprends, franchement.
Il y a une question qui revient à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est quelle tenue vestimentaire vous ressemble le plus?
Bonne question.
Ma passion pour
le pyjama. Arrêtez.
On a dû te la faire vraiment un maximum
mais
de fois.
tous les jours. Ouais. Mais les gens rient énormément, c'est ça qui est très spécial. Enfin, ils me disent genre, et alors, pyjama, vous dormez en pyjama, et après ils partent en fou rire pendant un quart d'heure, et moi je suis là genre, wow. Nom de merde, pourquoi j'ai pris ça. Mais,
ça vient d'où d'ailleurs, pourquoi t'as...
Bah en vrai, c'est, déjà j'ai choisi à 18-19 ans, donc j'étais là en mode délire, et après c'était quand même très lié au fait que j'adore dormir, je dors énormément, mais genre de façon excessive. J'adore être chez moi, j'adore tout ce qui est... confort, genre vraiment chez moi on dirait une cellule psychiatrique chelou, genre il y a aucune lumière vive, il y a que des trucs un peu genre des lumières genre nature et découverte, il y a plein d'oreillers, il y a des peluches et tout, enfin c'est très spécial, et du coup je pense que ça a été lié à ça, et puis je trouvais ça peut-être un peu mignon et un peu drôle, et je me suis dit comme ça personne ne pourra jamais me prendre au sérieux. Ce que après j'ai peut-être un peu regretté par la suite, mais c'est vrai qu'il y a un côté quand c'est pas ton vrai nom, enfin tu vois, tu peux dire non, c'est un personnage, c'est un projet, c'est machin. Ouais. Mais en fait ouais, j'adore moi les vêtements confortables pour de vrai. Après je me suis rendu compte que comme on est souvent pris en photo, en vidéo et tout, c'est quand même cool de se voir dans des trucs qui te mettent un peu en valeur, parce que parce qu'après tu te regardes et tu te trouves trop chum, même si parfois moi je me trouve plus jolie quand je suis pas pomponnée après, que quand je le suis, tu vois, mais ouais, moi c'est quand même le confort, genre si je passe une journée avec des chaussures pas confortables ou un jean pas confortable, je peux vraiment envie d'avoir de tuer tout le monde en fait, et du coup maintenant c'est confort absolu, genre vêtements larges, je sais pas si vous au lycée vous mettiez des trucs plus serrés,
grave slim.
Mais aussi, moi, j'avais ce truc de ne pas vouloir assumer que je faisais plus que du 36. Du coup, à un moment, j'ai dit, OK, bon, je fais du 38. Et à un moment, je me suis dit, en fait, non, je fais du 40. Et genre, c'est complètement assumable. Mais du coup, pendant très longtemps, je me faisais, tu sais, des marques. Parce que je mettais les jeans trop petits, les trucs.
Tu sautais pour le faire rentrer.
Ouais, il y avait vraiment un truc d'essayer de faire rentrer des boobs et, et du ventre et des fesses dans des toutes petites choses, et j'étais
là, cette mode du slim m'a fait beaucoup de mal avec
ouais, il y avait le slim et même plein d'autres d'autres trucs, et même la pointure, je me souviens j'avais honte de faire du 39 parce que je me disais en fait ça fait garçon d'avoir des grands pieds. Alors que c'était pas... Mais bon, de toute façon, quand on a 16 ans, on se passe la journée à s'occuper de son physique et à se dire qu'on est exactement de la merde. Alors que... Et après, ça se tasse, quoi.
Moi, je m'étais déformé un peu les cuisses parce que je portais des baggies. Mais à vraiment l'époque, j'étais skater. Et donc, c'était vraiment l'époque des baggies.
Très bas. Arrête de vouloir placer que t'étais skater, déjà.
Parce que tu vas voir que...
Grave la classe, moi, ça m'a...
Je cale là parce qu'il y a une suite à cette histoire. Et donc, je portais des baggies. Et en fait, au bout d'un moment, t'es obligé de quand même bien les serrer si tu veux pas finir juste en... J'avais les caleçons en parachute, mais que je porte toujours actuellement.
C'est impossible de t'imaginer, vraiment.
On n'imaginait pas. Hein. Non,
moi, je me suis empêchée, perso. Le caleçon parachute, j'étais là, quoi.
J'adore, moi, franchement.
Ça fait penser à Mario Kart avec les petits parachutes pour voler avec la voiture. Non
toi, et t'es trop une gameuse, ma belle. Calme-toi.
Moi, je pense à ça. Mais moi, là, il y a des trucs dans mon cerveau qui, on ne sait pas trop, ça passe. Hop, je pense à des livres pour enfants avec un éléphant qui fait caca aussi pendant que tu parlais. Et après, j'ai fait non,
je suis ravie d'inspirer de la merde. En fait.
Mais j'écoute en même temps, hein, mais ça m'inspire tout un tas de choses. Je vais écrire un album aujourd'hui, je pense.
Incroyable.
Et donc, du coup, t'as changé, quoi.
Ouais, donc je m'étais fait mal. Donc après, je mettais des trucs un peu plus serrés, etc. Et en fait, je n'ai absolument pas repris le skate. Je fais très vite fait du longboard, mais genre l'argument de je suis un ancien skater, ça fait que souvent je m'habille très oversize. Je porte beaucoup du Obey, des Dickies, pas mal de trucs très oversize. Ça, c'est les trucs les plus serrés que je peux porter, tu vois. Et souvent, j'ai l'argument de non, mais parce qu'en fait, je faisais du skate, donc c'est pour ça que je m'habille hyper large.
N'importe quoi,
du tout, tu vois. Et donc je porte que des trucs
oversize. Devant qui t'as besoin de te le justifier entier, de tes vêtements?
Je pense que le matin il se parle à lui-même, il fait non mais je peux parce que j'étais en fait avant skater.
C'est vraiment le fait de dire ouais c'est l'argument que je sors, mais qui te demande?
Mais vous êtes jamais senti un peu presque obligé, tu sais, des fois de justifier une fringue?
Moi on se fout beaucoup de la gueule de mes fringues en vrai, et de mes cheveux et de plein de trucs, mais avant j'en rigolais avec les gens, et maintenant je suis en mode ta gueule direct. J'ai trop la flemme en fait, et puis souvent les gens qui te donnent des conseils, tu les regardes et t'es là mais toi t'es moche, toi t'es pas original et tout, et tu me déprimes, ta vie est chiante, et genre j'ai tellement pas envie de te ressembler, et du coup t'es là genre ok bon ça on s'en débarrasse. Mais c'est vrai que dès que tu sors un peu du cadre, même si bon moi c'est pas fou, mais y a toujours un quelqu'un pour venir te dire c'était mieux avant. Et t'es là bah déjà je viens de me couper 10 cm de cheveux, donc je vais pas les remettre, tu vois, mais et
puis bah oui, ça, les cheveux, c'est un autre d'elle encore.
T'es KI, en fait. Ouais. Mais toi, tu te sens bien dans plutôt les types filets, du coup, maintenant.
Non, moi, filet de pêche. Non, moi, l'école roulée, en vrai, c'est toujours...
Ah ouais?
Ouais, l'école roulée, c'est toujours... Bah, ouais, franchement, été comme hiver, plutôt genre hiver-automne, mais...
Par nécessité à la base, pour la voix ou...
Je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop confortable. C'est classe aussi. Je trouve ça trop beau. Mmh. Après, il y a aussi un truc de cacher peut-être un peu aussi le maximum de peau, tu vois. Genre, moi, je porte beaucoup de... Enfin, je me suis rendu compte l'autre jour que sur scène... j'étais beaucoup plus à l'aise de danser si on voyait pas ma peau,
ouais,
par exemple.
Mmh. Okay.
Et donc, genre sur scène, je mets là depuis quelques mois, pour la première fois de ma vie, je mets des jupes, ouais, parce que j'ai des très très grandes jupes comme ça, genre qui font de la matière et qui font comme un peu un accessoire. Mmh. Et en fait, j'ai jamais autant dansé sur scène qu'en étant en jupe, et c'est pas du tout moulant et on voit pas du tout ma peau. En fait, j'en vois pas la forme vraiment de mon corps. Et à un moment donné, j'ai voulu tester un petit short en crochet comme ça aussi, avec un petit collant et genre des Doc Martens, et on voyait juste pas ma peau, mais on voyait la forme de mon corps, et j'arrivais pas à danser.
J'étais en mode genre, ça me met trop mal à l'aise, en fait.
Et en fait, du coup, moi, il y a un vrai truc de... Enfin, de sentiment de liberté par rapport aux vêtements qui ne l'est pas, en fait, qui est vraiment conditionné par par un milliard de choses et tout. Et bon, moi, j'ai jamais été victime de grossophobie parce que j'ai jamais été grosse, mais je sais qu'il y a une espèce de truc quand même dans la société globalement avec les formes, le corps et tout. Et tu peux pas... Enfin, tu vois, je pense que Pauline et moi, on n'a pas la même expérience, qu'on n'a toutes pas la même expérience, mais tu peux... Enfin, c'est comme s'il y a des règles qui sont implicites et tu peux pas t'habiller...
100% comme tu veux.
Voilà, mais en fait, t'as l'impression, mais quand tu déconstruis vraiment et tout... Et il y a un truc avec le oversize où moi, j'ai vachement réfléchi sur ça, qui est que, en fait... Quand t'es mince, tu peux t'habiller oversize, mais quand t'es gros, tu peux pas t'habiller oversize. Et genre, il y a plein de gens qui m'ont dit, bah, en fait, c'est quand tu vas dans la friperie et que t'es une personne grosse, bah, toutes les minces, elles ont acheté tous les trucs oversize. Et du coup, les meufs grosses, elles ont rien à la friperie. Et j'étais là, mais de ouf, en fait.
Alors quand t'es gros, c'est encore pire. Leur taille, finalement, quoi.
Bah, en fait, c'est les vêtements en XXL, c'est les vêtements à leur taille. Et en fait, j'étais en mode genre, mais même en fait, le fait de s'habiller oversize, au final, même moi, tu vois, qui met une grande jupe, qui vais acheter un hoodie 4 fois trop grand pour le cacher, bah, c'est un truc que plein de gens ne peuvent pas faire parce que ça n'existe pas pour eux, tu vois. Et du coup, moi, j'ai plein de réflexions par rapport à ça parce que j'ai eu plein de troubles alimentaires, de problèmes très très intenses avec mon apparence. Et j'essaye de trouver des vêtements que j'aime vraiment, mais en essayant de déconstruire tous les trucs. Et c'est pas évident parce qu'en fait, c'est rare que je m'habille que pour moi, dans le même truc du regard des autres et tout. Souvent, je me rends compte que je m'habille... Mais le col roulé, ça reste une constante que je mets depuis très longtemps et qui, je pense...
Valeur sûre.
Ouais, voilà, qui me met confortable, où j'ai l'impression que c'est assez neutre, c'est beau, tu vois, genre, il y a un truc. Et puis, c'est mixte aussi, genre, ça va aussi bien aux mecs qu'aux meufs, je trouve, et c'est très confortable. Mais moi, tu vois, la dernière fois, j'étais venue en salopette. Ouais. Là, ça fait longtemps que je mets plus de salopette, genre, ça dépend. Et j'essaye, moi, ça fait quelques années que j'essaye de mettre des trucs... plus près du corps et où on voit plus ma peau pour voir comment ça me fait sentir, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, parce que j'avais l'impression que c'était dangereux, quoi. Tu vois,
c'est genre, ça, c'est du danger, genre, en fait, t'as le truc où même si on te prend une photo à un mauvais moment, bah, on peut voir ta culotte, si t'as mis un truc trop court.
Ouais, c'est ça.
Moi, on m'a déjà fait des réflexions quand j'étais plus jeune aussi, genre, je suis sortie de scène, j'ai mis un pull et le mec, il m'a dit, ah, toi, tu joues à poil et après, tu vas t'habiller après. Je lui ai roté dessus, pour tout vous dire. C'est la première fois que j'ai fait ça, j'ai même pas répondu, j'ai juste roté dans sa gueule.
C'était pas à Lyon?
Non, c'était à La Rochelle.
Ah oui, ok.
Et du coup, l'horreur. C'est vrai que t'as toujours ce truc de dire, bah, limite, j'ai vraiment envie ce soir d'y aller à poil total et te sentir bien sur le moment. Et puis après, tu vois des photos et tout, et t'es là, genre, ah ouais, quand même, je suis archi vulnérable quand on
mais
voit
c'est ça,
mon
c'est
corps. Quoi.
Même quand t'as l'impression de choisir et de vraiment, parce qu'en plus, les vêtements, ça peut être un truc incroyable et c'est un truc fun et c'est un truc qui te ressemble et qui, en fait, c'est assez dur, je crois, de le faire de manière totalement libre et indépendante et complètement libérée de. Et je pense que voilà, peu importe ta morphologie, mais d'autant plus quand t'es pas dans les standards et tout. Mais
moi, tu vois, à la base, l'oversize, au-delà
mais
du
c'était pas
entre
une critique,
la case
hein.
du sketos,
pas une critique.
Mais c'est aussi parce que j'étais très complexé.
Bah c'est ça, non mais
maigre,
c'est pour ça. Mais
c'était
pour ça.
Aussi me faire une plus grosse carrure.
Ouais, mais en fait, moi, personne n'est à l'aise avec son corps parce que tout le monde te dit que t'es difforme,
bah,
quoi que tu fasses, à moins que tu sois parfaite. Mais dans ce cas, en plus, on va tout le temps te dire, on va te ramener à ton corps en continu. Typiquement, tu vois, je me dis à chaque fois qu'on évoque Angèle ou quoi, moi, mes copines ou des gens, elle est trop belle et tout. Et t'es là, ouais, mais elle a aussi fait des super albums et machin, et c'est un truc où
on la
c'est
ramène
vrai
toujours,
qu'il y a cette plastique parfaite et tout, mais il y a autre chose, tu vois, et en fait c'est ça, c'est après t'es ou trop grosse ou machin, ou alors on va te dire pour pas te te vexer trop, va te dire ah mais ça ça te met pas en valeur, tu vois. Et t'es là, ouais,
oui,
mais
comme
moi...
si ça existe en plus ce truc de mettre en valeur. Il y a plein de gens qui pensent que quand ouais quand t'es pas mince tu peux pas mettre de short, que tu peux pas montrer, enfin c'est un truc de, enfin vraiment c'est genre un del, et c'est vrai que
ça évolue très lentement,
ouais,
on va dire quoi.
C'est ça, du
ça
coup
évolue un peu,
mais... la question des vêtements elle est trop fascinante aussi parce que du coup il y a, moi j'ai un espèce de amour haine avec les vêtements, où genre il y a des jours où je suis en mode mais c'est trop bien, et puis il y a des jours où je suis là mais c'est angoissant en fait, parce que genre t'as l'impression de t'habiller pour toi, et puis en fait dès que tu te vois en photo justement comme t'es confronté à ton image et tout, genre on réfléchit vachement à ce qu'on va, enfin tu vois tous les jours t'es un peu dans ce truc de réfléchir, et en fonction des occasions et machin, et même tu vois par exemple moi des fois je suis invitée à des événements et c'est écrit tenue correcte exigée, je suis en mode c'est quoi,
ça veut dire quoi,
mais c'est quoi en fait, bah non mais tu vois c'est quoi une tenue correcte exigée, genre en fait ça veut dire quoi pour parce qu'en fait ça veut dire que c'est des liés à des espèces de codes et des trucs qui...
C'est lié
qui...
à l'argent aussi, parce qu'en fait, si t'arrives avec un truc un peu cheapos et tout... Enfin, moi, je sais que j'ai jamais eu des problèmes d'argent, mais je sais que dans ce genre d'endroit, j'ai pas les codes, forcément. Oui. Et ça va qu'on me fait passer pour la meuf originale, tu vois. Mais sinon, je vois que j'ai pas les mêmes qualités de fringues et tout. Et tout simplement parce que ma mère, souvent, elle me dit « Pourquoi tu veux toujours mettre des trucs sales ou trop grands ou troués et tout ?» Et je suis là, mais en fait, c'est ce que je trouve. Et c'est dans les fripes et tout, c'est comme ça. Sinon, j'achèterais des trucs... mais il n'y a pas un désir de ressembler à un pouilleux. Genre, en fait, c'est vraiment des trucs que tu trouves dans les fripes et tout, et c'est vrai que ce truc
que
de
c'est pas parfait, quoi,
pour moi aller à un mariage, mais l'angoisse absolue parce qu'en fait je me déguise en une meuf que je suis
grave.
Pas j'arrive avec une meuf genre qui est là, salut, je bosse dans la com, c'est pas moi en fait, je mets des décolletés et tout, je suis là talons, j'arrive pas à marcher,
c'est grave,
genre l'enfer quoi. Et en fait maintenant je me force, je me dis mais écoute-toi, et genre si les gens ils t'ont invité et si les gens ils te connaissent en fait, ils te voient, ils voient tes stories, ils voient machin, ils savent que si t'arrives à l'église et que tu t'es déguisée genre la reine d'Angleterre, c'est cramé, c'est pas toi, tu vois. Mais c'est vrai que ça c'est pour ça que moi j'aime bien vieillir en fait, c'est que j'ai l'impression que tu t'en branles de tout,
voilà,
de plus en plus,
de plus en plus,
et moi je me dis
des cases qui se cochent un peu,
bah, mais c'est ça, je me dis genre nous trois grand-mères, genre on va être trop yamb, tu vois, on sera là dans le métro patas et cartadas,
à poil dans le métro,
foutre, c'est ça, tu vois, et je me dis on a quand même un peu plus de liberté qu'à une époque, parce qu'en fait on parle de ces sujets tout le temps. Moi c'est vrai que dès que je me retrouve avec des chanteuses ou des meufs artistes dans une salle, genre on se dit bonjour, on rigole deux secondes, on dit des banalités, et au bout d'une demi-heure on parle de sexisme, d'agression sexuelle, de machin, et on forme des espèces de rondes comme ça où genre on est là, on dit des trucs sataniques,
formule magique,
et genre il y a genre un mec dans le studio, il est là, moi je vais boire un café, et nous on est là, ouais toi aussi ça, et on se raconte des trucs hyper deep d'un coup, et je me rends compte que bah, même nous, tu vois, avec Claire on s'est rencontrés il y a genre 5-6 ans je crois maintenant,
plus, je pense même,
et en fait direct on s'est mis à raconter des trucs super deep et tout, et on se faisait part de nos expériences, même si on avait des vies assez différentes, en fait on vivait les mêmes trucs de sexisme, et on se disait mais ça il faut que je réponde ça et ça, vas-y, on va dire un machin de truc, et en fait il y a cette entraide quand même qui est moi pendant longtemps j'ai cru que c'était un fantasme un peu la sororité, et j'avais un peu peur des meufs, de certaines meufs, parce que je me disais ah ouais elle a l'air pas sympa et tout, et en fait je me suis rendu compte que comme on vit vraiment toutes les mêmes trucs un peu humiliants et tout, bah direct il y a une espèce de truc de conseils et de copines avec même les meufs un peu plus âgées et tout, et c'est vraiment très utile en fait dans ce milieu, parce que quand t'arrives t'es vraiment la brebis égarée, genre
mais justement il y a une question sur le milieu qui est beaucoup revenue. C'est, est-ce que l'industrie musicale vous fait peur ?
Déjà, est-ce qu'on aime l'industrie de la musique ? 1, 2, 3.
Non !
Merde. Qui aime les industries de quoi que ce
ça
soit ?
Ça veut dire quoi en plus ? Ça implique qui ?
Je pense que c'est les labels. En fait, moi, si je le transpose avec YouTube, par exemple, c'est dès que moi, ça a commencé à un peu marcher, c'est des gens qui te disent « Ah, on va t'apporter des choses, mais du coup, on va prendre quand même une partie de tes revenus. » Donc, c'est les networks, etc. Les producteurs. Et moi, au début... Mais ça, quand on parlait au début de s'entourer des bonnes personnes, moi, au début, dès que ça commençait à se professionnaliser, il y avait des gens qui venaient me voir en disant « T'as absolument besoin d'un producteur ?» Et je suis producteur. Et j'étais en mode « Ah ouais, bah grave, alors bosse ensemble !» Et derrière, je me disais «
Il se trouve que voici mon indispensable. »
Et c'est pour ça que j'ai fini par monter ma boîte de prod, avoir mes propres studios et tout, parce que je me rendais compte que la valeur ajoutée des personnes externes n'était pas forcément le cas. C'est vrai, pour mon industrie, c'est plus complexe dans la musique, parce qu'il y a tous les trucs de stream, etc. Mais en gros, ouais, c'est un peu ça.
C'est quoi
c'est
la question
s'entourer.
De base
Oui, moi aussi, j'ai oublié.
Moi, j'ai pas oublié.
Vas-y.
L'industrie de la musique.
Est-ce que l'industrie musicale vous fait peur ?
Ah, vous fait peur ?
Moi, malheureusement, j'ai grandi dedans depuis que j'ai 16 ans. Du coup, j'en fais partie, mais je n'aime pas toujours au quotidien.
Ça se voit, elle a envie de dire plein de trucs, elle est là, j'aime pas trop.
Non, moi je me suis construite à l'intérieur de ce milieu.
Toi, t'étais un bébé.
Bah, de ouf. J'avais 19 ans quand j'ai signé mon contrat d'artiste et j'avais fait de la musique déjà avant. J'avais fait un single, genre à 16 ans et demi, avec un artiste. Et du coup, il y a quelque chose qui est tombé par terre.
Non, c'est mon pied.
Ah, d'accord. J'ai un problème avec le dessous de la table. Je sais pas ce qui se passe.
Il y a un écho un peu.
Ouais, c'est ça. Il y a une présence. C'est Camille Combal, d'ailleurs. Ah, non, ça va. J'imagine.
Il rigole aux blagues.
Il est là depuis le début.
C'est ça. Il est sous la table.
Que il fait vraiment 2 mètres. C'est un enfer pour lui.
C'est impossible.
En fait, tu le tiens en captivité depuis des mois. En laisse. Ou des coups de pied.
En fait,
il a un collier de force.
On l'embrasse, Camille.
Yes.
Qui était venue à Montréal, non, Camille.
Oh, ouais. Trop sympa. C'était vraiment adorable. Mais il vient quand il est invité au spectacle, il vient parce que je l'ai vu au concert d'Angèle aussi. Il était à côté de moi. Il était trop mignon. Il était trop content d'être là.
Il est adorable.
Et non, mais moi, ouais, je. En fait, c'est pas que ça me fait peur parce que c'est comme si, comment dire, je vais trouver une image, j'aime bien les métaphores. C'est comme si, tu vois, par exemple, la question c'était est-ce que les zoos te font peur? Et qu'en fait, moi, j'habite dans une cage du zoo, tu vois. Et que je suis en mode genre. Et, bah non, mais tu vois ou pas? Je suis en mode, moi, je suis dans l'enclos des singes. Et en fait, depuis que j'ai 16 ans, je suis dans l'enclos, donc ça me fait pas peur. Mais peut-être que si là, tu me disais.
J'étais dedans.
Voilà, si tu me disais, fais une visite au zoo alors que t'y es jamais allé, je trouverais ça horrible, je pense.
Ça veut dire que tu fais caca dans ta cage?
Moi je fais caca sur moi-même.
Ok, ça je savais pas déjà.
Non, mais tu vois, du coup
ça veut dire que tu te sens un peu enfermé quand même.
Ah bah moi je suis dans la prison dorée, hein, ouais. Moi j'ai l'impression d'être d'avoir eu la chance de rencontrer des gens très tôt, mais du coup de pas avoir eu beaucoup de temps non plus pour comprendre, tu vois, où est-ce que j'avais envie d'aller et tout. Et moi globalement je travaille avec les mêmes équipes depuis que j'ai 17 ans et je suis pas sûre que voilà que ce soit toujours le truc le plus adapté. C'est juste que c'est ça qui s'est passé. Mmh. Et voilà, moi, j'ai pas eu, quand j'ai commencé dans la musique, j'ai pas eu 1000 propositions de label, j'ai pas eu 1000 propositions de tourneur et tout. Et donc, j'ai pris, comme on disait au début,
ce qu'il y avait,
ce qu'on m'a proposé. Et en fait, j'ai grandi là-dedans et j'ai évolué là-dedans. Et je pense que, du coup, ça me fait pas peur parce que j'ai, d'une certaine manière, participé et profité de ce système à plein d'égards. Mmh. Mais aujourd'hui, moi, il y a plein de choses que j'aimerais bien changer et il y a plein de choses qui vont plus du tout. Et
déjà, t'as fait un sacré chemin quand même.
Oui, non, mais bien sûr, il y a eu. En fait, j'ai l'impression que c'est marrant parce que j'ai l'impression que je parle des choses et que je dis voilà, ça n'allait pas. Et qu'en fait, d'année en année, il y a des nouveaux trucs parce que c'est un milieu qui, de toute façon, fait peur de base. Et je pense que moi, je peux pas dire que ça me fait peur parce que je suis vraiment dedans. Mmh. Mais quelqu'un qui, peut-être comme toi, arrive, tu vois, depuis moins de temps. C'est complètement différent, je pense que ça peut être terrifiant, tu vois, mais
en plus toi ils te répondent pas à tes messages et tout.
Ouais, en plus chaud. En plus.
Parce que est-ce que en tant qu'artiste vous avez la sensation quand même de pouvoir changer les choses dans l'industrie, d'être au cœur de l'industrie mais de pouvoir changer des trucs ou en fait
Moi honnêtement, j'ai fait plus le choix de comme ce que je dis depuis le début, le choix de la santé mentale, c'est-à-dire que dès que ça se passait mal, je me disais il faut trouver une solution. Et en fait, moi, j'ai une toute petite équipe et j'ai aussi une manageuse depuis 2 ans, je crois, avec qui c'est incroyable parce qu'en fait, elle est absolument anticapitaliste, elle est féministe, elle est écolo et tout. Et donc, d'habitude, les gens qui bossent avec toi, ils veulent te pousser à faire des trucs un peu relous, même si ça va pas trop avec tes convictions et tout. Et elle, pour le coup, elle est vraiment genre on est together, tu vois, on est en mode genre on se comprend, on a les mêmes combats et tout.
Elle fait quand même gagner un peu d'argent ou elle est...
Pas du tout. Par contre, elle m'a volé tout ce que j'avais sur mon compte. D'accord. Non, il y a ce truc où en fait moi je me suis rendu compte que c'était pas normal de tout gérer toute seule. Et tu vois, par exemple, on peut s'appeler le dimanche soir, elle peut répondre à un mail, moi j'ai la colère assez rapide et donc quand quelqu'un m'énerve, je suis en mode et en fait avant d'envoyer, maintenant je lui envoie à elle et elle renvoie un truc hyper poli et quand même assez direct, tu vois. Et ce truc là je me suis dit c'est parfait parce qu'en fait on est une toute petite équipe. Avant j'étais avec un label plus gros et en fait je me rendais compte qu'artistiquement ça, on pédalait un peu dans la semoule parce que dès que je voulais expérimenter des trucs un peu foufou, on me disait non machin ça va pas et tout. Je me suis dit on va partir et d'un commun accord on s'est séparés, donc ça c'était cool, il n'y a pas eu de problème. Et maintenant on est dans un truc où en fait moi j'ai l'impression d'être hyper libre dans ma musique et dans mes choix de clips machin, genre j'ai pas trop de restrictions. Et du coup, je me dis, c'est l'idéal. Après, je me dis, j'aurais peut-être plus de... Il y j'aurais plus de succès, plus d'argent avec d'autres gens. Mais en fait, là, c'est un peu le choix du cœur où, genre, vraiment, on se parle de tout. Tu vois, moi, genre, quand je leur dis cette semaine, bah, je suis archi angoissée, je peux pas faire ça et tout, ils vont pas me dire mets-toi un coup de pied au cul, tu vois. Ils savent que quand je suis comme ça, je suis chez moi en train d'arracher des posters au mur et de faire ah. Et du coup, il y a un truc hyper sécurisant où je me dis, ben, on n'a pas percé, tu vois, mais il y a un truc un peu constant où on remplit de plus en plus les salles, on communique bien, on rigole, machin. Et donc,
tant mieux à la limite que ça se passe comme ça.
Ouais,
parce que t'as le temps de t'habituer, ton cerveau peut s'habituer.
Ouais, puis moi, j'aimerais que ça reste comme ça jusqu'à que je sois vieille et que je puisse plus chanter, tu vois, mais en plus, moi, je dis tout le temps à Claire, genre, tout ce qui est genre succès, victoire de la musique. Moi, quand je vois sa vie, je lui dis, c'est ma phobie. Genre, je suis trop contente pour elle parce que, mais c'est ça, mais même tu vois, ses fans et tout, genre, ils sont trop mignons et tout.
Tu les critiques là ?
Tes vieux fans là. Non, mais ses fans, parce que moi, du coup, j'ai fait les premières parties de Claire et donc ses fans, ils viennent à la fin et ils sont trop mignons et tout, mais genre, pour moi, c'est trop intense, quoi. Ouais, genre, ils la voient, ils ont les larmes aux yeux et tout. Après, il me dit, c'est quoi la pointure de Claire ? Et moi, je suis là, genre.
Vraie question ?
Oui, oui. Ouais. Mais en plus, c'est Mims, mais je sais que moi, j'aspire à. Comme je suis un peu dérangée dans mon cerveau, j'aspire à un peu plus de tranquillité. Et moi, j'adore supporter Claire, genre l'accompagner au Victoire de la musique et faire vas-y, ma belle ! Et genre, je pleure quand elle gagne et tout. Mais par contre, moi, si on me disait de venir sur scène, je serais là. I'm out. donc voilà pour l'entourage un peu cocooning qui me protège de l'industrie de la musique qui est quand même un gros truc de requin. Ouais.
Mais finalement, t'as peut-être pas l'impression d'être tant confronté à l'industrie telle que tu l'entends. Ouais. C'est ça, après, en vrai, le bon trick, je pense que c'est ça.
Tu vois, c'est le truc aussi où je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Dès que tu vas à un concert, tu croises tous les gens des labels, les éditeurs, les machins, et ils sont là, genre, quand ça marche un peu pour toi, ils sont là, genre, hey, ma belle, ils te font la bise, ils sont là, elle est géniale, elle va cartonner. Et après, un an après, ils sont là, ils disent même pas bonjour. Et t'es là, genre, bah, requin land, en fait. Mais bon, après, une fois que t'es au courant, c'est pas. Il y a quand même des bonnes amitiés à se faire là-dedans. Mais c'est vrai que.
Ça fait peur, enfin, le mot peur est quand même justifié, moi, je trouve.
C'est vrai.
Toi, Olympe, t'as hésité. Bon, t'as eu un an pour réfléchir, tu me diras, mais est-ce que t'as hésité ou tu te dis, ah, vas-y, c'est pas le moment de signer ou...
Depuis le début que je fais de la musique, j'étais en duo avec Jules Jaconelli, qui est un très bon ami à moi. Et en fait, on a tout fait ensemble au début, vraiment en duo. Et on était un peu dans notre indépendance, en mode, on fait de la musique et c'est grave cool. Et on a sorti deux singles et tout, et on a tout fait un peu solo. Et comme mes covers, ça marchait bien, etc., bah, du coup, j'ai eu l'immense chance de rencontrer pratiquement tous les labels de Paris. Genre, y a eu un moment où on a fait des rendez-vous avec tout le monde, quoi. Et on a rencontré, je pense, zéro meuf. Genre, vraiment, que des mecs.
Zéro.
Yes. Zéro, je pense. Et peut-être une.
Plus dans les éditrices, peut-être. Moi, j'ai plus des éditrices meufs, mais sinon...
Là, c'était des DA, des directeurs de label, ou des... Enfin, bon, bref. Et du coup, on a fait beaucoup, beaucoup de rendez-vous, et ça m'a inspiré que du négatif. Genre, j'étais vraiment là, mais en fait, on n'a vraiment pas besoin d'aller se foutre là-bas, en fait. C'est vraiment plus de négatif que de positif.
Ah, donc t'as eu cette lucidité-là de te dire, dans carrément, le projet, il n'y a pas besoin de ça.
Il n'y a pas besoin, on reste en indé, on se débrouille très bien tout seul. Et en fait, c'est le fait de rencontrer Flo et Oli qui m'a un peu, qui m'a fait changer parce que j'ai senti une vibe tellement saine et tellement familiale et positive et tout. Et aussi pas de bullshit, tu vois. Genre, ils m'ont parlé, ils m'ont dit des trucs cash et tout ça, mais il n'y avait
puis
pas
ils
de...
Ils ont vécu ce que c'est en d'être plus, artiste. Et en plus, ils sont jeunes, il y a aussi ce truc-là. Parce que les DA, souvent, c'est des mecs qui ont fait des écoles de commerce. Qui viennent de sortir du resto, d'avoir mangé leur bout de bidoche, et puis ils sont là, alors ma cocotte. Et t'es là, bah non, je veux partir en fait.
Grave. Pas tous, hein. Mais bon, il y a un peu cette vibe. Il y a un peu cette vibe, mais que j'ai pas du tout ressenti avec Flo et Oli, du coup, qui était hyper, hyper bienveillant et tout, et qui me disait pas des faux trucs en mode, moi je vais te faire percer en 3 mois, ou des bullshit de juste pour te faire signer. Enfin, c'était bizarre, tu vois. Et du coup, là, j'ai eu un petit coup de cœur en mode, vas-y, là, je sens que ça peut, du coup, m'apporter du positif, et que ça peut ouvrir le projet et vraiment faire avancer, et tout en bienveillance. Donc, c'est ça qui m'a fait changer de ligne directive. Et je suis hyper contente en vrai d'avoir fait ça parce que déjà je vois toutes les opportunités que ça m'a apporté, et c'est vrai que le projet avance, quoi, et on a pareil une petite équipe, le label est jeune encore, donc j'ai vraiment affaire à des gens quotidiennement qui sont hyper bienveillants et tout, et on est tout bien, tu vois, dans notre petite bulle, un peu comme toi, j'imagine. Mais du coup, enfin, il y a le côté bulle de petit label et genre on avance tous ensemble petit à petit. Et il y a le côté un peu grosse machinerie, Big Flo et Oli, tu vois, qui sont derrière et qui sont
la locomotive.
Viens au Planète Rap et moi je suis là, waouh, ok, viens au Bercy, ok. Donc j'ai pas l'impression que c'est l'industrie dans le sens négatif du terme, mais je ressens quand même qu'il y a une différence de quand j'étais en indé. C'est un peu plus. Voilà. Ouais.
Une question qui n'a rien à voir, mais m'a fait beaucoup rire. Est-ce que vous préférez les enfants ou les vieux ?
Bah moi, j'aime les pas enfants. Les vieux, donc c'est vite réglé.
Non, c'est les enfants. Bah oui.
Bah,
parce
après,
que les vieux sont un peu des enfants aussi.
Ouais, mais moins fun. Mais leur crotte est moins mignonne, par contre.
On y revient toujours.
Moi, j'ai pitié des vieux plus.
Oui. C'est vrai.
J'ai vraiment mal au cœur. Je sais pas, quand je vois un grand-père, par exemple, dans un film qui vit une situation triste,
ouais,
c'est vraiment horrible.
Oui, c'est tire larmes au cœur.
Mais par contre, en termes de. Les enfants me font plus rire, je trouve.
Puis les enfants ont moins vécu des trucs... par exemple, les enfants racistes, ça n'existe pas trop. Alors que les vieux racistes, il y en a plein. Tu vois, tu peux faire une liste comme
très
ça.
Très bon argument, déjà.
Ouais, il y a, par exemple, pareil, un enfant, il peut pas... À vélo, les vieux, horrible. Mmh. Horrible vieux. Genre, moi, je me fais tout le temps traiter.
Ouais,
salope,
moi aussi, je me
machin,
insulter.
Alors que t'es là, je respecte le code de la route, monsieur.
Oui, oui.
Aussi, certes, je ride à fond, mais... Et du coup, ouais, je pense que les vieux, ils peuvent plus être nocifs dans ta vie, même si les cris d'enfants. Moi, j'ai fait un vol il y a pas longtemps, un vol d'avion, les enfants ont hurlé pendant 12 heures d'affilée.
Les cris d'enfants, c'est
et je me suis dit, j'en veux plus en fait. Mm. Donc, je crois qu'en fait, mieux, on va dire qu'on préfère les chiens.
Ouais.
Voilà. ça, on est d'accord.
Moi, j'avoue qu'il y a des tranches d'âge avec les enfants où ça me stresse un peu parce que j'arrive pas à communiquer.
Genre les nourrissons, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ceux qui peuvent pas s'exprimer.
Ceux qui doivent porter.
Ils n'arrivent pas à communiquer parce qu'ils parlent juste pas.
Ouais, c'est ça. Et puis, je comprends pas. Ils envoient des signaux. T'es en mode, on peut pas avoir une conversation entre adultes, s'il te plaît.
C'est impossible.
Puis en plus, quand ils sont vraiment petits, moi, j'ai trop peur qu'ils meurent.
Ils se brisent.
Genre, il y a un truc où j'ose pas. Après, moi, j'aime bien, quand. Après, nous, on adore les enfants de toute façon.
Oui, non, moi j'adore, même nourrissons inclus. Genre, j'ai un naturel bébé, c'est trop bizarre. Moi j'ai un truc où je suis en mode genre, enfin, tu vois, hier.
D'ailleurs, t'as ton vêtement d'allaitement là tout de suite.
Ouais, là j'allaite en ce moment des enfants des autres.
Non.
Je tire mon lait et je fais des pots qui.
Tu veux un pot?
C'est ce qu'on est en train de boire d'ailleurs.
Un petit pot de lait.
Mais tu parles, je voulais diversifier en plus à la base. Donc,
écoute, voilà. Non, mais hier j'étais avec mon filleul qui a 2 ans et clairement il parle en Sims, tu vois, il fait genre. Et en fait, moi j'ai l'impression de comprendre des trucs. Et je lui réponds des trucs, je pense que c'est ça dont tu parles, ce truc où moi j'ai ce truc là en moi, où même si je sais pas exactement ce qu'il a dit, je décide de comprendre et de lui répondre et d'avoir une conversation
ça
avec lui, et ça
m'est
pas du tout mal à l'aise, et je suis en mode genre bah ouais bien sûr, vas-y je te donne ça, je fais ci machin, et en fait j'ai toujours adoré, et j'ai même fait mon BAFA spécialisation petite enfance, je sais pas si je te l'avais déjà dit, et c'est les 3-6 ans, et en fait c'est mes préférés parce que du coup, bon 3 ans il commence à savoir bien parler et tout, mais même avant j'ai aucun malaise, et moi j'ai rencontré mon tourneur parce que j'étais la babysitter de sa fille qui avait 11 mois, et du coup je changeais sa couche et tout, enfin genre vraiment j'étais, et j'adore vraiment les enfants, après pareil que tout le monde j'ai un problème avec les cris d'enfants, mais ça c'est une base dans la vie, personne n'aime être dans un avion avec 35 enfants qui hurlent, tu vois.
Ou des sociopathes peut-être, mais
voilà, mais non, moi j'ai vraiment un truc de naturel, et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on a fait, quand on a fait le livre pour enfants avec Pauline, moi j'avais trop hâte de faire de la promo.
Merci Camille Combal.
Ouais. C'est Camille qui nous l'a fait passer.
Incroyable. En plus je l'ai reçu ce matin.
Mais il est
parce
adorable.
Que, en fait, de vous recevoir toutes les deux, je peux plus articuler. De vous recevoir toutes les deux, je me suis dit mais en fait j'avais vu passer ce projet là. Mm-hmm. Je me suis dit mais en fait il faut que je le lise.
Il est adorable.
Et tu vas le lire maintenant.
Et je vais le lire.
Allez,
maintenant.
Une lecture. Mais
je le trouve incroyable parce qu'en fait tu dessines.
Je dessine, elle écrit.
Et oui, et en fait ça nous a permis aussi, c'était un prétexte pour faire des activités avec des enfants, faire des goûters dédicaces avec des enfants. Et moi, j'ai vraiment une... Enfin, je me souviens que quand on faisait les dédicaces, parfois, il y avait des adultes aussi, parce qu'il y avait des gens qui écoutaient ma musique ou la musique de Pauline. Et j'étais tout le temps un peu en mode genre, c'est quand les enfants, tu vois.
Ouais,
parce
nous,
que moi,
vous voulez les bébés.
Je veux juste communiquer avec des enfants. C'est très bizarre, tu vois, dit comme ça. Mais genre, enfin... Le contact des enfants, mais ça on en avait parlé, je me souviens, dans le insomnie par rapport à la maternité et tout, parce que à ce jour, je trouve que la maternité c'est compliqué parce que ça donne pas du tout envie dans ce monde actuel. Mais l'idée d'être toujours en contact avec des enfants et de trouver des moyens de vivre la maternité autrement.
vraiment, moi, c'est ma passion. Et genre, mon filleul, je le vois pas souvent, mais quand je le vois, genre, je suis totalement disponible pour être avec lui et tout. Et pour moi, être au contact d'un enfant, c'est un vrai truc. C'est pas juste, ouais, il y a un enfant, c'est cool, il y a plein de gens qui en ont à foutre. Et moi, c'est une activité, quoi. C'est genre une méditation, tu vois. Genre,
Ouais, tu penses qu'à ça et t'es en mode la survie. C'est sa survie qui est entre mes mains.
Mais grave. Et genre.
Et en plus, est-ce que, à travers l'histoire, vous n'êtes pas dit, bon, bah, c'est clairement les gens du monde de demain.
Bah oui.
Est-ce qu'on va raconter des trucs dedans?
Bah voilà, c'est ça. C'est exactement ça.
C'était l'inverse des vieux. Parce que
sont malléables.
Et on déteste, les vieux.
Ah bah les vieux.
Le titre de cette vidéo. Ouais.
Les pauvres vieux.
Mais ouais, en fait, ce qui est étonnant, c'est que, bah, du coup, moi, j'ai un peu un appartement de psychopathe. En même temps, toi, t'as pas mal de petites figurines et tout.
Ouais, je suis un peu addict.
Moi, il y a beaucoup ça dans mes toilettes, par exemple. Mais j'ai aussi énormément de livres pour enfants. Parce que bah, comme j'en ai fait avant et que j'adore ça, j'en ai alors que j'ai pas d'enfant. Et c'est vrai que tu trouves aujourd'hui des sujets comme la transidentité, tu trouves plein de choses, mais c'est très récent. En fait, il n'y a pas très longtemps, il n'y avait pas encore de bons livres pour enfants avec de papa ou de maman. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on crée un livre pour enfants, on se dit on ne peut pas l'écrire comme si on était au Moyen-Âge, il faut s'adapter. Et puis en fait, c'est simplement du plaisir et de la créativité, quoi. Tu te dis, bah, c'est vrai que nous, on n'avait pas envie de faire un truc archi random qu'on n'aurait pas aimé lire quand on était petite. Et puis en fait, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous ont envoyé des messages, genre merci pour ce livre-là, parce que ma petite fille, elle s'est vachement identifiée au personnage, alors que d'habitude, pas trop.
Oui.
Et voilà, mais c'est surtout Claire qui l'a écrit, donc.
Moi, j'ai mis tous les sujets de société actuels. Ça m'a vraiment fait
kiffer. T'as pas mis la réforme des retraites?
Non, c'était pas encore...
Le tome 2, peut-être.
Ouais, c'est ça. Dans la suite.
Parce que c'est adorable. Une manif avec des loutres, genre « Arrêtez, Macron, non !»
Vous êtes dit, peut-être, pourquoi pas un deuxième?
Mais il y a plein de gens qui nous ont demandé. Et en vrai, genre, moi, j'ai l'impression que c'est une histoire... En fait, c'est pas vraiment une histoire avec
c'est un voyage.
Une narration. Non, mais c'est une petite fille qui fait la sieste et qui va dans un monde magique et tout. Et moi, je me dis, si on refaisait un livre ensemble... Moi, j'aurais envie de faire une autre histoire et d'inventer un autre truc. Ouais, voilà. On a tellement d'idées, tu vois, qu'en fait, ça, c'est une parenthèse et tout. Et en fait, il y a tellement d'autres trucs à raconter que je pense qu'un tome 2, moi, ça m'excite moins que juste faire d'autres projets avec d'autres personnages et genre inventer d'autres histoires.
Puis même, moi, redessiner le même personnage que j'ai dessiné pendant 6 mois, j'en peux plus. Je suis un autre personnage maintenant.
Bah oui.
Même si on l'aime.
Elle est adorable, par contre.
C'est notre copine maintenant.
Il nous reste plus beaucoup de temps, mais j'ai envie de faire encore quelques questions. Est-ce que vous avez une action que vous faites dont vous avez un peu honte? Moi, par exemple, il y a un truc que je fais, c'est que j'ai tendance dans l'espace public à parler à haute voix, mais c'est très peu accepté. À Paris, c'est plutôt accepté.
Tu parles fort? Genre, tu parles fort?
Non, pas forcément fort, mais j'ai besoin tout seul
comme
de parler.
Ah,
ouais.
Quoi?
Ouais, exactement. Donc en fait, les gens se disent soit il est un peu fou, soit les gens me reconnaissent et ils font un peu bizarre.
Il est en train d'enregistrer un podcast.
C'est ça. Et donc, il y a un truc. Moi, les AirPods, déjà, m'ont sauvé la vie là-dessus.
Ouais,
c'est que maintenant, ça m'est arrivé de faire semblant de
croire. Mais attends, mais tu dis quoi?
Bah, je pense à des trucs.
Ah, tu penses à haute voix? Genre, comme mon grand-père, quoi.
Ouais, où je dis, ouais, je pense la prochaine vidéo, on va faire ça.
Mais non, mais
ce serait trop cool d'inviter un tel et tout. Mais en fait, j'ai besoin, je sais pas, mon cerveau.
Je suis choquée. Mais attends, parce que là, il nous fait une confession et on rigole. Alors
je me suis livrée à vous.
Moi, j'allais dire un truc beaucoup plus de merde. Attends, je vais réfléchir.
C'était quoi que t'allais
mais
dire?
Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont croisé dans la rue et qui pensaient que c'était hôtel et pas du tout.
Non, mais moi, je sais plus. Plus des trucs d'alimentation où j'ai un peu honte
de manger. Mais le McDo, quoi.
Mais je sais même pas ce quoi. McDo, tu dis? Je connais pas. Enfin, jamais entendu parler. Non, mais moi, c'est plus sur les. J'ai un problème, mais genre vraiment addictif avec les belins au fromage. Et mode, je peux en manger. C'est souvent quand je suis pas bien. Genre, je me dis, je vais prendre des boulards au fromage. Et genre, je m'enfile le paquet. J'en donne quelques-uns à mon chien. Je sais pas si c'est bon pour la santé, mais bref. Et après, t'as l'impression d'avoir mangé genre du vomi. Genre, ça pue. C'est dégueulasse, mais j'adore
mais
ça.
Mais c'est pas une honte en vrai. C'est juste cute. Moi, j'allais dire un truc pire.
Ah, vas-y. Mais peut-être je vais dire un truc pire après, mais j'ai pas
T'as changé de fusil d'épaule.
Ben non, mais je cherche de la pire, mais j'ai aucun défaut. Du coup, c'est trop chiant.
Aïe.
Et ouais, c'est dur à dire. Je trouve que tout le temps, t'as des pensées random qui arrivent. Tu dis genre, putain, ça c'est trop la honte. Ça ferait une trop bonne anecdote pour une interview et tout. Et quand on te pose la question, moi, mon cerveau est vide. Vraiment, je ne sais plus ce que je fais.
T'as pas une note de la honte?
Genre ouais, non.
Il faut faire disparaître. Mais moi, peut-être quand j'ai bu, je vole beaucoup de trucs.
Genre, je vole des trucs et après, je les jette dans la rue et ah je bon m'en souviens pas. Et les gens, ils me disent, t'as fait ça hier, et je suis là, bah, je suis pas malade mentale non plus, donc je pense pas. Et je me suis retrouvé genre des tire-bouchons et tout dans mes poches, et je suis là, genre, bah, faut arrêter de boire.
Il n'y a même pas des trucs de valeur, ça. C'est juste le fait de prendre un truc. Quoi.
C'est vraiment
ça
nul.
Ça m'arrive aussi, mais j'ai tendance kleptomane.
Ah ouais, ouais.
Okay. Pas sur
vas-y, vas-y. Toi, tu bois pas d'alcool, donc ça va être une honte pire, en fait.
Alors,
parce que t'es sobre.
Je suis obsédée. Non, mais vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Mais moi, en fait, il y a énormément de choses qui vont pas. Hein. J'ai des tocs et tout. Non, non, mais moi, c'est un truc de fou.
Est-ce
et
que en plus, tu es au courant ou pas?
Non. Okay. Enfin, si, peut-être tu m'as déjà vu le faire, parce que, en fait, c'est un truc que je fais depuis des années. C'est que je check tout le temps l'odeur de mon haleine.
Ah oui, mais ça c'est bien pour les autres.
Non, mais oui, mais moi c'est devenu genre une addiction, tu vois. C'est devenu.
Et tu fais comment?
Bah avant, je faisais comme ça, genre en mode tranquille, tu vois. Je mets mes mains et tout. Et maintenant, parfois.
Tu lâches un truc.
Non, mais parce qu'en fait, genre. Non, mais tu sais, il y a plusieurs méthodes et tout. J'avais fait des recherches sur comment c'est savoir. Ouf. Non, mais vraiment, c'est un truc de malade.
Sur internet, il y a vraiment des pages qui t'expliquent.
Bah, c'est qu'il y a plusieurs trucs, tu vois. T'as des gens qui disent tu dois lécher ta main et sentir.
Moi, j'ai déjà fait ça,
ta
ouais
main et tout machin. Et alors, moi, je faisais le truc où tu vois, tu fais comme ça et où tu vois, tu
ça
mets.
Ça marche
le...
pas, ça.
Bah, pas vraiment. Sauf que maintenant, c'est devenu tellement un truc que je dois faire constamment. Mais vraiment, là, je l'ai fait genre 10 fois depuis le début de l'interview. Que je le fais sans mettre la main. Mais juste, j'ai un petit mouvement bas de ma mâchoire,
j'ai
comme
déjà
ça.
Vu.
Où t'envoies.
Où j'envoie.
Et, mais à quoi ça? Parce que c'est... attends.
Les gens pensent qu'elle est camée. Et en fait, elle sent son haleine,
parce
elle est là.
Que, pourquoi? T'as mais besoin ça stresse, de... Ça me stresse de pas savoir. Genre,
ça me stresse. Non, mais c'est clairement un tic. Ouais, ou un toc. Ouais, ou un TikTok, je sais pas comment on dit.
Ça marche vraiment?
Bah...
Parce juste, ça t'apaise de le faire, en gros.
T'as dit... Juste, elle a dit un TikTok et personne n'a réagi.
Elle a fait déjà deux dates dans cette émission.
Elle a fait une blague de Laurent Ruquier et personne n'a réagi.
Un TikTok. J'ai grave honte de ça, mais je l'ai quand même dit, donc ça veut dire que je suis prête.
Franchement, ça va.
Pour l'instant, c'est Ben le plus bizarre. Pour l'instant,
vous parlez jamais à haute voix tout seul, non?
Chez moi, oui.
Mais moi, je fais plein de trucs.
Mais après, avec mon chien, moi, je fais des trucs chelous
toute seule.
Ah oui, moi, j'ai déjà fait en anglais.
Tu prépares des réponses.
Ah mais moi, je fais. Moi, de mon miroir, je peux passer vraiment des heures à juste faire des trucs avec moi-même ou juste genre. Faire des interviews m'entraîner à jouer.
Ah oui.
C'est-à-dire, je me fais une scène, par exemple, où je sais que là, je vais devoir pleurer, tu vois.
La colère.
Et genre, ouais,
la
de ouf.
Moi, j'ai un truc de meuf du théâtre. Ouais. C'est un truc de théâtre.
Et ben, si c'est comme ça, on ne va plus jamais se parler. Tu sais, je fais des dialogues et tout. Et genre, les larmes coulent et tout ça. Et après, je suis en mode. Ok, cool, bien, bah, j'ai bien fait et tout. Et puis je refais mes activités. Et je pense que si on me surprend à faire ça, on peut se dire elle est un peu tarée, mais c'est vraiment un truc de théâtre.
Les gens, les théâtreux, ils savent.
Et
tu
ça
vois,
m'a grave aidé en vrai, parce que maintenant, pleurer sur commande, c'est un truc qui est pas trop compliqué pour moi.
Moi, j'ai appris
que...
aussi en tournant dans un film. J'avais jamais appris avant. Ouais. Bah ouais, c'est dur en vrai.
Faut se mettre dans un mood quoi. Mais
en fait, le cinéma et le théâtre. Il y a un truc avec la honte, de toute façon, que tu dois totalement faire disparaître du coup tous les trucs dont t'as... Moi je suis hyper cringée aussi, comme Pauline. On est vraiment cringé par les trucs premier degré. Et tout. Moi, ça peut me faire pleurer. Quelqu'un, tu vois, qui est trop premier degré, je suis en mode... Non.
Quoi?
Vraiment, ouais, ça peut me faire pleurer.
Moi, j'ai déjà frappé des c'est gens ouf qui m'ont dit des trucs genre « je t'aime » et tout. J'ai déjà mis une gifle tellement ça me met mal à l'aise, quoi.
Ouais, la cringeless.
Ah, wow, c'est l'enfer. Cool.
Et le théâtre, c'est le cinéma, genre, c'est l'inverse.
La demande en mariage, moi, ça va pas être possible. Je vais m'en aller à l'autre bout du pays.
Ça, je peux comprendre, mais mais c'est abusé.
Non, mais du coup,
je te jure, je peux pas. Il y a des moments, je peux pas. Oui, je suis en mode, genre, c'est trop prom dog pour moi. Du coup, je fais genre.
C'est émotions, c'est purement dire tes émotions.
Oui, c'est la gêne, en fait. C'est la gêne. Et c'est vrai qu'on m'a souvent dit en couple, on peut pas rigoler tout le temps. Genre, tu fais pas des blagues tout le temps. Et c'est vrai que moi, même dans les contextes, genre de la mort, des trucs hyper trash, je suis en mode, je tente une petite vanne tout le temps, tu vois. Je me dis, parfois ça marche et parfois c'est genre... Bah, non.
Mais du coup, le truc de ce que tu racontes, c'est que c'est aussi que tu désamorces tous les trucs honteux et que t'es obligé, quand tu fais du théâtre ou du cinéma, d'accepter le sentiment de gêne et de passer par-dessus. Et moi, c'est un truc que j'avais jamais fait avant de tourner dans un film et ça m'a changé ma personnalité, genre vraiment.
T'oublies un peu quitté, en fait.
Bah ouais, en fait, non, mais c'est que t'oublies les trucs dont, tu vois, tu dis, ouais, les trucs que tu fais dont t'as honte et tout. Ouais. Mais moi, le truc de la laine devant les caméras, j'ai dû le faire 108 fois dans le tournage. Et en fait, je suis en mode, bah voilà, c'est comme ça. Et même, je faisais un autre truc aussi, qui est que pour me détendre la mâchoire, je suis genre comme ça, tout le temps. Et genre, je le faisais devant la caméra et donc ils ont 80 000 images de moi. Ouais. Je fais des grimaces, mais horribles, tu vois, des trucs où, genre, vraiment, normalement, je suis comme ça, genre, et personne me voit. Genre, et en vrai, t'es obligé de. C'est pour ça que je comprends grave le truc de. enfin de le faire devant le miroir. Mais c'est aussi pour ça que du coup t'as pas de trucs honteux et que t'as pas d'idées, parce que si tu fais du théâtre et du cinéma, il y a un truc genre
ouais, t'as désamorcé ça déjà.
Mais oui, en fait il y a un truc avec la honte qui est trop stylé dans le parce que tu peux pas avoir honte quand tu joues, sinon tu peux pas jouer.
Bah ça t'empêche de
tu peux pas, c'est impossible.
Alors tu joues mal.
Ouais, ou alors tu joues un rôle d'une meuf qui a honte, mais sinon, genre,
tu joues super bien.
Et là, tu joues super bien.
Tu peux jouer ça toute ta vie. La meuf qui a honte, on a une meuf super. Elle a méga honte.
Toujours le même casting.
Elle déteste ce métier, du coup, vous pouvez lui proposer. Moi, j'ai une mini expérience et vraiment, je me suis rendu compte que.
Bah, justement.
Ma cringerie de Scapin.
Tu n'as pas surpassé la honte.
C'est incroyable.
Pas mal. Ouais, c'est devenu une expression dans mon. Mais ouais, non, je me suis rendu compte. Et pourtant, pareil, j'ai dû pleurer et tout. Et sur le coup, la réalisatrice, elle me disait « Pleure, ta mère, elle est morte !» et tout. J'étais là genre « Et j'ai pleuré. Et là, ils ont dit « Ah, il n'y a plus de batterie dans la caméra !» Et genre, je pleurais. Ils m'ont dit « Faut refaire !» et tout. Et moi, j'étais là genre « Personne vient me consoler, en fait. » Ça se passe quoi ? Genre, je vis un moment hyper intense.
Je crois que ça me bloquerait s'il y avait une réelle qui disait « Pleure, ta mère est morte !» Ah bon, c'est une vraie info ou on est...
C'est marrant parce que en même temps, tu dois complètement ne pas te prendre au sérieux et vraiment te désinhiber. Et en même temps, il faut un peu se prendre un peu au sérieux pour jouer, tu vois. Faut assumer que t'es en train de créer
c'est un peu un humiliant, moi, je trouve, quand même. Mais bon, ça dépend si t'es une professionnelle, t'arrives, je pense, à te dédoubler. Moi, il y a un truc où toutes les trucs que j'ai vécu sur le tournage, j'ai l'impression de l'avoir vécu dans ma vie aussi. Et je me suis dit, c'était une chouette expérience, mais je vais plus faire ça. Genre, c'est pas pour moi.
En vrai, j'ai pas mal de potes qui étaient pas forcément comédiens à la base, soit c'est des humoristes ou artistes musicaux, etc., qui sont mis à faire du jeu en long métrage.
Ouais.
Et qui, à la fin de l'expérience, ont dit « Je ne referai plus jamais. » C'était traumatisant. Ça peut être trauma, je ne referai plus jamais ça. Quoi. Ça m'a
fait hyper vulnérable, en fait. Quoi.
Mais moi, j'étais terrifiée avant de... Moi, justement, on parlait aussi des trucs qui stressaient et tout. Moi, j'ai eu des moments de grande angoisse où j'étais en mode « Mais pourquoi je fais ça, en fait ? Pourquoi je me mets dans cette position-là hyper vulnérabilisante alors que moi, j'aime contrôler, j'aime pas qu'on me voit, tu vois, avec des visages que je peux pas contrôler, machin. » Enfin, en fait, c'était tout ce qui me faisait peur dans la vie. Mais moi, je fais tout le temps ça parce que du coup, je sais qu'après, ça va me... Enfin voilà, ça peut être traumatisant, ce qui est hyper dangereux en même temps, de faire des trucs que t'as pas du tout envie de faire ou que t'as peur de faire, et en même temps ça peut aussi être hyper libérateur. Et avant le tournage, moi j'ai eu un an de préparation, puisque comme j'avais jamais tourné, j'ai bossé pendant un an, j'ai répété pendant un an, j'ai fait plein de trucs différents avec des cascadeurs, avec des acteurs, avec des
problèmes physiques, t'avais préparation physique.
Bah oui, parce qu'en fait, genre j'étais en mode en fait, il y a une seule chose que je peux faire pour me sentir bien et donc pour aller au-delà de cette honte et de la cringerie de Scapin que j'adore et que je pratique moi aussi, c'est de me préparer, tu vois. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'aux premières journées de tournage, j'étais tétanisée à l'idée de faire le film. Et je disais à tout le monde, moi, je vais faire ça une fois et je referai plus jamais ça. Parce que le sentiment d'anxiété était tellement intense que je me disais, mais ça vaut pas le coup de pendant un an.
Ça te rend pas heureuse.
Mais ouais. Et en fait, à chaque fois, en plus, après les répètes, genre, j'avais des discussions avec la réal qui est incroyable, que j'adore et qui me disait genre... Là, c'était cool, mais pour le film, il va vraiment falloir que tu lâches prise et tout. J'étais en mode, mais je vais jamais y arriver parce que là, moi, j'ai donné 4000% de ce que je pouvais donner. Tu vois, genre, ça va être impossible. Si là, pour toi, c'est juste une introduction, moi, je vais mourir en fait. Enfin, tu vois, genre. Et
ça,
en
c'est
fait.
Sorti.
Non, ça sort.
Le prochain James Bond, en fait.
Classe.
Quand t'as dit cascadeur, je t'ai imaginé, t'es en mode voiture qui explose et tout.
Non, mais
des vraies cascades.
Non, parfois c'est juste pour donner des coups de poing ou des trucs. Là, c'est juste pour casser la gueule à un gars que j'ai dû faire du. Ouais, et puis je me faisais. Je me faisais. Ouais, j'ai pensé à. C'était incroyable.
Elle a dit en plus. J'ai pensé.
Non mais vraiment, je vous jure, je regardais le visage du gars et je pensais à tous les hommes que je déteste et il y en avait beaucoup, il y en avait énormément et il revenait son visage tout le temps et j'étais là genre, et juste pour mettre des coups de poing, tu dois apprendre à coordonner tes mouvements. Ouais. Mais moi finalement, tout ça pour dire que ça m'a permis de surpasser la scringerie, la scringerie
de plus rien dire à la fin.
C'est toujours plus. Ouais.
Et que j'ai adoré, je sais pas si je referais. Okay. Parce que j'aime bien aussi, moi j'ai envie de voir le résultat, parce que ça se trouve je vais me trouver horrible.
Moi aussi j'ai envie de voir
le
résultat.
J'ai vu des petits extraits, mais ouais, bah oui, tu m'étonnes. Ouais. Mais
ça a déjà été annoncé ou non?
Oui, ça s'appelle La Vénus d'Argent et dedans je suis une meuf qui veut être tradeuse dans la finance.
Et c'est pour ça que tu t'es rasé la tête aussi.
Et c'est pour ça que j'ai
quand même une grosse expérience.
Dans le film, je me fais raser la tête dans une scène.
Moi, je suis sa manageuse en fait. Je lui dis les trucs un peu buzz qu'il faut qu'elle dise, tu vois.
Non, mais en fait, ça rejoignait les trucs de honte. Et je sais plus trop pourquoi, mais ça m'a fait penser à ça. Et quand t'as dit, moi, je fais des scènes pour m'entraîner dans le miroir, en fait, ça m'a fait penser à cette expérience de vie qui a duré genre 2 mois, tu vois, et qui, moi, m'a vraiment changé mon rapport à la honte et à la gêne et tout. Mais pour le mieux, tu vois. Et je suis contente d'être sortie en fait de la gêne et de la honte et de de l'enfer d'être tout le temps en mode genre non mais là je vais être trop moche et tout machin, enfin tu vois genre et ça m'a vraiment aidé pour ça et c'est vraiment une chance et ça aurait pu être traumatisant si je pense que si je l'avais fait avant j'aurais pu être vraiment traumatisée parce que pas prête à vivre ça mais à ce moment-là dans ma vie là c'était en novembre décembre le tournage c'était le bon moment pour moi pour me mettre cette espèce d'échéance ouais et de dire bah voilà en fait maintenant tu vas arrêter de te juger en permanence sur à quoi tu ressembles sur le fait que tu fais ci ou ça que ton visage il fait ça que ton corps il fait ça machin bon ça change pas tout du jour au lendemain mais moi je me souviens que j'avais l'impression de méditer pendant 2 mois et que pendant 2 mois j'étais en mode genre ouais, c'est incroyable en fait de parce que tu vis les scènes pour de vrai et que tu le fais pour de vrai et en même temps il y a pas les conséquences sur la vraie vie donc tu vas genre frapper quelqu'un rouler une
pelle à
quelqu'un
tu vas pas aller en prison
mais voilà c'est ça et après et du coup t'es là genre mais en fait c'est un immense soulagement et tu te permets de faire
des
choses.
C'est vrai que t'as dû rouler des pelles, moi aussi j'ai dû rouler des pelles. Ouais. Moi j'étais hyper à l'aise par contre ça. Mais on avait mangé justement ils nous avaient
de l'ail.
Acheté des cheeseburgers avant genre pour qu'on mange vite fait des cheeseburgers et nous à chaque fois à la répète avec le mec on faisait genre et puis on se faisait la bise un peu, tu vois, on était gênés. Et en fait là la meuf elle était en mode grosse pelle, tu vois, elle était la grosse pelle avec le
elle faisait grosse pelle.
Non,
grosse pelle.
Elle m'a dit, tu lui défonces la bouche, elle m'a dit. Non, et elle m'a dit, du coup, grosse pelle et tout. Et ça a duré, quoi. Ça a duré longtemps et tout. Et le mec, on se connaissait pas. Enfin, on s'était vu une fois, quoi. Et
non, petit chewing-gum avant ou...
Non, même pas. Non, burger, juste cheeseburger burger, en mode shop de soirée, quoi. Directement.
Dans la fromage, ouais.
Mais bizarrement, c'est pas un truc, c'est pas le pire. Moi, pour moi, c'est le pire, c'est non, le pire, une fois, j'ai dû m'énerver et je l'ai trop mal fait et je devais dire un truc genre. Putain! Et j'ai joué trop mal, j'étais là.
Dur.
Putain! C'est plus dur, hein!
C'est hyper dur,
en vrai.
Ça, et faire genre, je suis au téléphone.
Ouais.
Pire chose.
Mais non!
Une débile.
Ah, moi, c'était là,
genre, allô?
Ouais!
Non, mais ça va pas.
Mais c'est des trucs du quotidien, en plus, où tu peux trop faker. Ouais, moi, j'ai dû faire une montée de drogue, de DMT.
Une montée de lait.
Ouais.
Intense.
Après j'embrassais la personne avec qui je prenais de la drogue.
Intense.
Et
non, vraiment, être stylé, en vrai, comme scène à faire.
Ah,
mais attends, mais spoil pas, imagine.
Ah ouais, non, c'est bon, je peux tout dire.
C'est vrai, tu peux
non,
tout
mais
dire.
Non, mais juste, c'était le plus dur pour moi, c'était pas les
trucs. Et t'as trouvé ça galère ou
horrible.
Ouais.
Horrible parce que j'avais l'impression que je mettais en péril le film parce que, genre, c'était une des scènes les plus importantes et que faire semblant que tu prends de la drogue, si c'est mal fait, ça peut briser le film.
Comme les gens bourrés. Le nombre de séries où tu vois des gens qui se font genre, ils sont bourrés, c'est gênant.
Ça brise tout, tu vois. Et en plus, c'est une scène hyper importante et tout. Et genre, j'étais en mode, bah. J'ai regardé sur internet ce que ça faisait de prendre de la DMT, mais en fait, quand tu lis des trucs, c'est hyper dur de. Ouais. Et en fait, on m'a dit.
Y a pas des vidéos ?
Bah,
des
si,
vidéos
mais en fait, c'est interdit, donc il faut trouver des vidéos.
La meuf, elle est allée sur le darknet.
Ouais, sur le darknet de la DMT.
J'ai acheté un flingue au passage.
Ah non, mais franchement, ça, c'était hyper dur ce que je me disais. Justement. Être au téléphone et tout, et des trucs comme ça, ça peut être cringe, mais en vrai, c'est des trucs qu'on sait faire et qu'on a déjà fait, et tu peux essayer de te remettre dans des situations de la vraie vie, alors que prendre de la DMT, moi, ça m'est jamais arrivé.
Bah, moi, oui. Hein. Et du coup, j'étais là
plus
genre...
que de téléphoner, d'ailleurs, quotidiennement.
Ma phobie, c'est que les gens, ils regardent et qu'ils fassent « Ah, mais MDR, elle a jamais pris de la DMT. »
De toute façon, quoi que tu fasses, les gens, ils vont dire ils vont voir une chanteuse dans un film, ils vont être là, genre...
Ben voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils vont dire.
Ils vont se régaler. Ils vont dire tourne chanter chanteuse.
J'ai trop hâte de me faire insulter.
Ouais, c'est l'enjeu de se faire oublier, de que les gens disent pas ah je vois Pomme en train de faire un rôle, mais de voir le rôle. Quoi.
Mais bah, regardez Camélia Jordana, il y a un César.
Bah, c'est ça.
Non mais c'est ça. Les gens c'est des couteaux suisses quoi. Faut arrêter.
Ça, c'est bien vrai ça.
Mais Pauline, oui, tu jouais bien dans ton petit court-métrage.
C'est gentil. Moi, j'avais trop peur. Oh là,
t'es une comédienne.
La première, ça s'est fait dans un petit cinéma. Il y avait mes amis, il y avait mes parents et tout. Et la scène du roulage de pelle, j'ai pris la cuisse de mon ami, je l'ai enfoncée comme ça, j'étais là, je ne peux pas voir ça. Et genre à la fin, tout le monde pleurait et tout, et j'étais en mode, mais pourquoi j'ai fait ça, c'est tellement gênant, genre pourquoi j'ai montré
d'émotion, tu veux dire, les gens.
Mais après, moi je trouvais que c'était réussi, mais en fait, moi je faisais que me voir en train d'interpréter le rôle d'une meuf qui s'appelle Camille, qui est pianiste professionnelle. Et moi, il faut savoir que, genre, ils ont mis la musique de Schubert par-dessus ce que je jouais, mais moi, en fait, sur le tournage, on entendait et du coup tout le monde rigolait. Mais moi
t'as pas eu d'émotion en regardant le film, en mode t'as pas réussi à te mettre dans l'histoire, quoi.
Il y a eu plein de moments que j'ai trouvé super mignon et tout, mais après moi je crois que en fait, dès que je suis pas dans un contexte confort de musicienne et de drôlerie ou de trucs comme
c'est
ça,
trop premier degré,
ou d'absurde, et ben je j'aime pas. Je suis là genre non merci.
Il y a peut-être un petit truc à checker
au niveau psy, non, ouais. Je pense pas. Moi ça va en vrai, mais après je me dis aussi c'est tentant ce truc de vouloir tout faire et tout, mais en fait c'est bien de se concentrer sur un truc à la fois.
Si t'aimes pas, ouais, tu vas pas te forcer à faire des trucs que t'aimes pas.
Je suis en train de dire ça alors que je suis en tournée en train de faire une BD et une comédie musicale jeudi prochain. Ah ben non, ça sera pas
sorti. Bah, c'est passé.
Ça sera fini.
Comment c'était ?
C'était super. C'était une comédie musicale qu'on a écrite avec Voyou sur le nouvel album de Voyou.
Okay.
C'était d'enfer, quoi.
D'enfer.
C'était top, génial.
Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette expression. Mais
ouais,
elle est cool,
je m'entraîne pour mon rôle de prof, en fait. C'était tip top.
Chambé.
J'ai une dernière question que j'aime beaucoup. Qui sont vos rôles modèles ?
Moi, c'est Pomme et Olympe, en fait.
Oh là là.
Role model.
Il y a plein.
Moi, je suis une très, très grande fan de Marilyn Monroe. C'est assez inexplicable, mais j'ai une fascination pour elle depuis que je suis petite.
Il y a plein de docu, là, en plus, qui sont sortis, non ?
Des films. Alors, j'ai pas voulu voir le film Blonde parce qu'on m'en a dit beaucoup de mal. Enfin, je vais peut-être le voir un moment, mais...
Moi, j'avoue que j'ai rien compris. En fait, pour moi, c'était comme le film Elvis, où si tu connais pas déjà tous les faits historiques, tu ne comprends pas
ensemble,
trop ce qui se passe.
Horrible. Le pire film du siècle.
Elvis ?
Oui.
Moi, ça m'a pas
beau.
Trop...
Je trouve ça beau, mais
l'acteur,
moi,
il m'a dérangé.
La musique.
Ah ouais.
Bah, l'acteur, on aurait dit un TikToker, déjà.
Oui.
Il était là, genre...
Il était tout le temps comme ça ?
Non, ça allait pas.
Ah ouais ?
Mais
j'ai bien aimé.
Ah ouais, mais non, mais t'as complètement
le droit.
Mais moi, j'adore les biopics, du coup.
Moi aussi,
j'y vais vraiment en me disant, genre celui sur Bohemian Rhapsody, là, je l'ai vu 3 fois. Tous les documentaires d'artistes, les trucs liés à la vie des artistes et tout, j'adore ça. Mais j'avoue que celui-là, j'étais un peu déçue. Donc du coup, toi, ton modèle, c'est Elvis. C'est ça.
Non, j'aime beaucoup Elvis, mais non, ouais, je sais pas, Marilyn... Des humoristes aussi, tu vois, genre Louis de Funès, fascination aussi un peu, enfin tu sais, des trucs un peu à l'ancienne, j'ai trouvé qu'ils avaient trop la classe, tu vois, ouais, grave.
Ouais, donc plutôt à l'ancienne, pas des gens actuels.
Actuellement, non.
Personne.
Actuellement,
je n'aime que les morts.
Non, actuellement, il y en a plein, mais tu sais, c'est des espèces de fascinations que t'expliques pas et aussi qui viennent de l'enfance, parce que donc, t'as un peu matraqué avec ça. Enfin, tu vois. Un
truc de nostalgie.
Ouais, je pense que c'est avec, ça, hein, ouais. C'est la nostalgie en vrai.
T'as trouvé ?
Moi, Lady Gaga quand même.
Ah ouais ?
Ouais. Moi, Gaga. Depuis toujours, depuis que j'ai 10 ans et qu'elle a sorti Poker Face. Et encore aujourd'hui, et je rêve souvent d'elle et tout. Mon rêve le plus marquant, c'est la fois où j'ai rêvé que j'avais dit à tout le monde que je l'avais rencontrée. Et je disais à tout le monde, putain les gars, ça y est, j'ai rencontré Lady Gaga et tout. Et en fait, j'avais une photo que je voulais montrer à personne et je disais, on a pris une photo ensemble et tout. Et en fait, je montrais la photo, je finissais, mais après, genre, je sais pas combien de minutes. De rêves qui sont des heures et à chaque fois des jours et des mois et tout. Et je finissais par montrer la photo et c'était moi avec un Golden Retriever et je disais, non mais je vous jure que c'était Lady Gaga.
C'est trop
bien. Et les gens ils faisaient genre, non mais Claire, enfin, c'est pas possible, tu mens et tout. J'étais là, non, je vous jure que c'est elle, vraiment.
Mais du coup, j'aimerais que tu le fasses dans la vraie vie.
Ça serait incroyable, et elle est tout le temps dans mes rêves. Et genre, je l'ai vu en concert quand j'avais 12
ans.
Dans
mes rêves, mon mec.
M'enlève et mon mec.
J'ai dit qu'elle avait la coupe de Diams avant de me.
Oui.
J'allais dire avant de monter sur scène, mais faux, on est assis autour d'une table.
Mais non, Lady Gaga, genre vraiment une de mes grandes passions. Enfin, j'ai trop envie, tu sais. Genre, il y a la musique évidemment, mais il y a aussi le fait que j'ai envie dans mon âme et c'est témoigné par mes rêves de la côtoyer, tu vois. Genre, j'ai envie de la rencontrer et tout, genre. Et je l'adore vraiment. Ça reste. Après, il y a aussi des gens morts comme Barbara, mais que j'ai comme on n'habite pas dans la même époque, il y a un truc de qui est lointain, tu vois, où je suis en mode je l'aime profondément et je me sens, tu vois, connectée, je
c'est un peu
j'adore.
Ta religion, mais tu sais que c'est pas possible, quoi,
voilà, et du coup rôle modèle, je sais pas, parce que voilà, c'est aussi une autre époque. Lady Gaga, en fait, elle utilise les mêmes codes que nous, elle a les réseaux sociaux, il y a un truc où du coup c'est rassurant parce que c'est dans un cadre que je connais, je suis en mode mais elle est trop stylée, je l'adore.
Est-ce que Billie Eilish aussi un peu?
Bah ouais, mais en même temps, elle a genre 5 ans de moins que moi. Du coup, genre, moi, c'est comme un...
Ouais, mais ça peut, hein.
Ça... Oui, non, mais je la trouve hyper inspirante. Mais il y a un truc de genre, elle est plus jeune que mon plus petit frère, tu vois. Okay. Et je suis en mode genre, bah en fait, elle est incroyable, c'est... mais elle est tellement jeune que j'ai l'impression que...
C'est pas cohérent pour ton...
Non, c'est ça. Mais en vrai, c'est juste, c'est un peu débile, ça. Ouais.
Je pensais en termes de perso aussi.
Ah mais grave, non, mais après, je la trouve hyper inspirante. Et souvent, il y a des trucs qu'elle fait que je trouve trop stylé. Et... Mais je sais pas si... si je peux la considérer comme un rôle modèle, parce que parce que je trouve que
souvent c'est des gens plus âgés,
voilà, c'est ça, genre il y a un truc où là elle vient de rentrer dans la dans l'âge adulte, elle était une adolescente avant, tu vois,
j'avais pas capté qu'elle était aussi jeune.
Bah là, ouais, genre c'est 20 un bébé, ans quoi. Hein. Ah, ouais. 20 ans ou 21 ans je crois maintenant. Et du coup bah en fait elle est incroyable, mais il y a un truc où elle se construit, et où genre moi je la enfin j'ai plus l'impression d'assister à la construction, voilà, et à la au fait de découvrir une artiste qui est en train de grandir et de se découvrir, tu vois. Et mais je pense que genre dans 15 ans, bah déjà c'est le rôle modèle de toute une génération, et puis elle va le rester et elle le sera. Mais Lady Gaga, c'est ça, là, genre, je sais pas, 15 ans de plus que moi, et c'est trop ma.
Oui, c'est vrai que mes rôles modèles, c'est souvent des gens qui ont passé des étapes.
Avant
que
toi.
Moi, je sens que je peux les passer.
C'est qui pour toi, du coup, tu vas nous dire?
Ben moi, dans ce que je fais là, moi, j'ai eu l'honneur de faire une vidéo avec lui, c'est Frédéric Lopez.
Ok.
Rendez-vous en terre inconnue.
Ah oui, Fredo.
Fredo, exactement.
Bien sûr.
Bien sûr. J'avais lui, Daphné Burki aussi.
Ah oui, j'aime
bien Daphné Burki. Première meuf un peu badass.
J'aimerais que ce soit ma mère.
Ouais.
Je l'adore.
Et j'ai eu la chance de leur. En fait, c'est marrant parce que toutes les télés que j'ai acceptées, c'était juste parce que c'était des gens que je kiffais. Donc, donc j'ai fait Click de Mouloud Achour, Je t'aime, etc. de Daphné Burki et Fred Lopez que j'ai rencontré.
Les amours avec Tex.
Exactement. Ah, ça, c'était mon. Ça s'est arrêté trop tôt, malheureusement, j'ai pas pu. Mais ouais, donc c'était plutôt des gens qui, pareil, en fait, avaient beaucoup plus de bouteilles que moi.
Bah oui.
Bah Camille Combal aussi, qui est quand même partie des gens. Je me disais, putain, c'est cool, ils représentent des gens stylés et sympas dans le milieu, tu vois, et pas requins. Et ça, je trouvais ça cool.
Ah non, mais Daphné, c'est possible. Je l'adore, moi aussi.
Alors moi, j'ai trouvé ma réponse.
Oui.
Vous allez voir, c'est hyper logique.
Ah.
Moi, je vais choisir un mélange entre Björk et Éric Judor.
C'est qui, Éric Judor?
J'adore cette réponse.
Enfin.
Éric Ramsey.
Ah!
Non, mais alors Claire, faut savoir que parfois, elle vit dans une grotte. Parce que je lui sors des trucs et elle me fait c'est qui? Genre, une fois, il y a un mec, genre, archi connu qui lui a écrit. Elle m'a dit, je vais pas lui répondre. Et je lui dis, mais c'est qui? Elle me dit, bah, c'est
Drake,
tel mec, tel créateur de mode, mais genre, archi connu. Et j'ai dit, mais ma belle, tu peux pas le laisser.
Oui, c'est vrai que c'est toi qui m'avais dit.
Et là, elle
ça.
M'a dit, mais c'est qui? Et
tout. Moi, je sais pas que c'est. Mais même Éric Ramsey,
Éric Judor, pour moi, c'est une des personnes les plus drôles. Et j'ai commencé à regarder Platane il y a pas longtemps. Et genre, je ris, mais vocalement. Et voilà, et Björk, c'est parce que je l'ai connue assez tard en fait, et genre il y a 2-3 ans, et j'ai vachement regardé des petites vidéos YouTube qu'il y a où on voit comment elle est chez elle, comment, avec quoi elle travaille, et je trouvais ça hyper inspirant parce que j'ai l'impression qu'elle était tout le temps dans un laboratoire de création et qu'elle était hyper connectée à la nature, et elle a toujours eu des styles un peu farfelus, et je trouve ça fou qu'elle soit devenue une légende de la musique alors qu'elle faisait de la musique hyper spé, elle a à la fois des chansons hyper dansante, il y a des chansons où tu comprends rien, et là elle a tout un truc où malgré le fait qu'elle vieillit, elle est encore là, elle fait encore des concerts, et c'est vrai que moi, pour me rassurer, souvent j'ai besoin de trouver des meufs qui vieillissent
qui
et qui sont encore là, et en vrai j'ai très peu d'exemples, souvent je cite il y a Catherine Ringer, il y a Peaches qu'on avait découvert ensemble, qui
incroyable.
Est une meuf archi-punk qui jette qui développe des énormes pénis en plastique dans le public pour pouvoir rentrer à l'intérieur.
Elle va dedans, c'est incroyable.
C'est
Canadien. Ah ouais, Peaches.
Il y a Mylène Farmer. Mais tu vois, ça se compte encore sur les doigts de la main. Alors que tu vois les vieilles canailles, genre Dutronc, Eddie Mitchell, les gens comme ça, tu te dis, ils sont adorés, machin. Mais les vieilles chanteuses, j'ai moins d'exemples.
Mais
si
Björk,
vous avez
c'est
des
un très
exemples.
Bon exemple, c'est vrai. Et en plus, elle est européenne. Et en fait, souvent, moi, c'est des Américaines ou des meufs aussi qui ont une histoire complètement intense.
Le rêve américain.
Ouais, alors que Björk, elle est européenne et scandinave. Et du coup, il y a ce truc aussi peut-être plus proche de ce que nous, on connaît en termes de style de vie et tout. Et ouais, mais il y a beaucoup d'artistes scandinaves très, très stylés.
Et elle a aussi cette espèce de part de... tu sais, on n'arrive pas trop, jusqu'à un certain moment, on n'arrive pas trop à lui donner d'âge parce qu'en fait, elle a ce truc où elle s'amuse vachement sur scène et elle crie. Et moi, je sais que c'est un truc que j'aime de plus en plus faire, c'est de pas du tout prévoir ce que je vais faire sur scène. Et si à un moment j'ai envie de gueuler, ou si à un moment j'ai envie d'arracher un vêtement et de le jeter, ou si j'ai envie d'improviser une chanson et tout, je peux le faire. Et j'ai pas vu beaucoup de meufs justement s'autoriser à faire des trucs un peu de folle.
Gaga, ma belle.
Ouais, justement, je pense que c'est ça qu'on aime bien aussi dans les rôles modèles, c'est qu'elles nous ouvrent la porte
pour faire un peu de la folie ouais. derrière quoi.
Truc surprenant ouais grave.
Trop bien.
Eh
ben,
bah moi j'ai très envie de faire pipi.
Ouais. Eh ben, ça parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Où est-ce qu'on peut vous retrouver chacune?
Alors moi j'habite 40 rue.
Yo, incroyable. T'allais vraiment le dire ma belle.
De toute façon les gens trouvent mon adresse maintenant et mettent des choses dans ma boîte aux lettres. Donc
sérieux?
Ouais, ça m'est arrivé. Wow.
Bah,
je vais faire ma promo. Moi, j'ai sorti des nouveaux titres il y a 2 jours. J'ai sorti l'extension de mon album. Et sinon, vous pouvez retrouver beaucoup de news sur Instagram où je suis malheureusement beaucoup trop active. @pyjamaofficial.
Tout s'affiche et tout est dispo dans la description.
Merci, la description.
Moi, je fais un concert le 16 mars au Point Éphémère.
Ouais.
Voilà, un concert solo d'une heure qui va être bientôt complet. Il faut se dépêcher vite. Il reste genre 3 places.
Non, c'est pas au moment sur la vidéo, c'est
fini.
C'est une semaine et demie.
Ah, c'est peut-être complet déjà.
Donc, c'est peut-être les dernières places.
Merci beaucoup d'avoir acheté. Non, voilà. Et puis, je viens de sortir un titre qui s'appelle Ma Terre, qui est disponible partout. Exactement pareil sur Instagram, je mets beaucoup de choses. Ça s'appelle Olympécable et le jeu de mots c'est impeccable.
Impeccable, ouais.
Ah mais c'est la première fois que je comprends. Impeccable. Je comprenais pas.
Je me suis sentie obligée de le préciser car ouais. personne vraiment ne comprend ce jeu de mots.
Ah, okay. Bah non, ouais. Moi j'avais pas compris. Je me disais c'est qui câble.
Ah, voilà, tout le monde me dit. Dire à l'oral. Tout le monde pense que ouais. je suis un duo du coup genre
ouais, câble. Bon, je vais peut-être finir par changer finalement.
Eh ben, je pense pas.
Olympe sans câble. Et là, les gens vont être là, quoi?
Parce que le arrobase Olympe,
je voudrais me réinventer quand j'aurais eu 10 ans de carrière.
Ouais, arrobase Olympe,
j'enlève mon câble. Pris, quoi. Red car, tu vois, tous les artistes qui changent.
Pas répondre à notre question.
Non, pardon, c'est quoi?
Non, t'inquiète. Le arrobase Olympe est déjà pris?
Le arrobase Olympe est déjà pris, sûrement. Oui.
C'est incroyable de l'avoir.
En fait, j'aurais bien aimé l'avoir, notamment aussi pour mon nom d'artiste, car mon nom d'artiste est Olympe plus Chabert, qui est mon nom de famille. J'aurais préféré garder que le Olympe, mais c'était interdit.
Ah bon ?
Ça a été déposé.
Parce
déjà.
Qu'il y a déjà une artiste qui s'appelle Olympe ?
Un artiste.
Et si tu changes l'orthographe ? Parce que moi, il y a d'autres gens en pyjama, genre il y a des Turcs et tout, je crois, qui s'appellent.
J'avais
pyjama.
Pas envie, je crois. J'avais envie de garder. Ah oui. Je trouvais ça joli, le Y. J'aime bien mon prénom, tu vois, je voulais pas changer.
Bah, c'est vrai.
C'est pas très grave, Olympe.
Il est sympa.
Comme ça, si je veux faire du ciné, ça sera.
Ouais. T'as tout prévu, t'as prévu ton coup.
Grave.
Olympe Chabert sur une affiche.
Ça claque. Ouais, ça va. Ouais, ça fait un peu, c'est normand, c'est, tu vois, c'est un peu, c'est Olympe, c'est un peu.
Mais c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais en fait, tu viens de quand? On a failli pas le dire, alors que le canet devrait.
Alors, notamment, parce que en vrai, je viens du 92, mais je viens de Clichy-la-Garenne.
Il est hyper déçu, là, il a fait genre.
Ouais, 92, j'ai fait.
Mais on a foutu du coup. Ma famille vient de Caen. C'est-à-dire que mon papa est canet. Et
c'est Guillaume Canet, ton père.
Mon père est Guillaume Canet, donc forcément ça aide quand tu veux un peu. Je vais pas le dire. Non, mais du coup j'ai passé vraiment la moitié de ma vie juste dans les champs de Rau, tu sais, la petite commune
bien
à côté
sûr.
De Caen.
Champs
de
Rau,
ouais, c'est
R-O-T-S,
ça.
Dire
voilà.
La caisse,
mais juste j'ai ma grand-mère qui habite et mes cousins et tout, mes cousines. Du coup. Il y avait ma famille là-bas, j'y allais vraiment un week-end sur deux pendant jusqu'à mes 17 ans, quoi, presque. Donc, je connais bien, mais je ne suis pas originaire, tu vois. Enfin,
tu ne veux pas mentir.
Petite, je ne veux pas mentir. Il faut,
exact.
Non.
C'est tes origines de ton père, quand même. Ouais. Donc,
c'est quand même les
origines. T'es quand même accepté de cœur.
Voilà, super, merci.
Et toi, Aurel Sain, t'as pas beaucoup d'actu. Toi, tu fais pas grand-chose en ce moment.
Moi, non, mais moi,
c'est chaud pour toi. Elle vient de faire un movie, quand même.
Elle s'ennuie vachement, la pauvre, c'est horrible.
Mais j'ai sorti une réédition aussi, qui s'appelle L'eau de consolation.
Oui, j'ai vu le jeu de mots, j'ai pensé à me dire que c'était bien.
Le 10 février, donc il y a des nouvelles chansons dessus, et puis je fais des concerts en ce moment... en France et en Europe en avril.
Donc
les
gens peuvent prendre leur place, il y a forcément leur ville.
Il y a
toujours les villes, mais.
Non, mais là, il y a.
Tout est complet ?
Ouais, mais par contre, à partir de novembre, je repars en tournée, il y a déjà des trucs qui sont annoncés. Il y a le Zénith de Paris qui n'est pas complet.
Okay.
Ah oui, il y a les affiches dans Paris. Moi, ça me choque à chaque fois. Genre, je suis sur mon vélo et d'un coup, je te vois en
plus, immense.
En soutif.
Oui.
En immense. Et je suis en mode MDR.
MDR, elle est en soutif dans Paris, là,
c'est
go.
C'est drôle.
Il y en a un à République et un à République et un à Gare de Lyon.
C'est les grosses colonnes vertes là, c'est
immense,
c'est très grand.
Les
colonnes Maurice, exactement.
J'ai eu ma première il y a pas longtemps.
Bah voilà.
Ouais.
Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Mais il y a ça et puis le film qui va sortir, mais je sais pas quand. Et donc je sais juste que ça s'appelle La Vénus d'argent, mais je sais pas quand ça va sortir, mais courant 2023, donc il faut rester à l'affût.
Faut être vif.
Faut être vif.
Trop bien.
Okay. Voilà. Et toi, tes actus?
Moi, mes actus, c'est...
Je me réveille, je sais pas, c'est la fin, je suis en mode...
Non, moi, c'est toujours une vidéo par semaine, des émissions, voilà. Il va y avoir des nouveaux formats qui vont arriver. Là, j'ai envie d'animer un jeu, donc je suis en train de préparer un jeu. Et en mai, il y a mon livre qui sort en version poche.
Ok.
Classe, mais je suis la seule à pas avoir fait de livre autour de cette table, quoi.
Bientôt, oui, bientôt, ma belle.
Tu sais, nous, on a fait un truc d'intellectuel, hein. Fais gaffe.
Ouais, bah oui, je me suis dit, gros niveau.
J'ai lu 2-3 trucs, j'ai rien compris. c'est grave.
N'hésitez pas à aller checker les playlists Equal sur Spotify, évidemment, grâce à qui on peut faire cette émission.
Oui,
si vous voulez découvrir plein de meufs qui font de la musique, la playlist, elle est chambée. Moi, je l'écoute toutes les semaines et il y a des nouvelles artistes que je découvre.
C'est trop bien.
Trop
menteur, tu détestes les femmes.
Oh non, je suis masqué. Pourquoi on était à ça?
Et là, on va voir dans son téléphone et il y a une playlist uniquement hommes, t'imagines, il est là.
Homme problématique, ça s'appelle.
J'adore.
Mais c'est vrai qu'elle est trop cool, cette playlist. Ouais, moi aussi, j'ai découvert plein d'artistes avec.
Carrément. Et ben merci encore, je suis trop content qu'on ait vu cette table.
Ouais, merci, mes belles. Merci à vous.
On peut aller se recoucher maintenant, peut-être.
Est-ce que vous voulez, parce que je sais que les gens kiffent ça, pour les courageux et les courageuses qui sont allés jusqu'au bout, est-ce que vous pouvez dire un mot chacun et c'est le commentaire qu'il faut mettre?
Ah, ok. Waouh. Non, ça me stresse trop.
J'ai relancé une demi-heure d'émission.
On peut dire la scringerie de Scapin.
Ouais.
C'est impossible qu'il devine.
C'est introuvable. C'est introuvable.
Et ben si vous êtes allés jusqu'au bout, vous pouvez commenter la scringerie de Scapin.
Yes.
Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
La scringerie.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.